Eh bien, il n'a pas fini cela. J'ai dit, j'étais en retard à mon mariage. Je suis né un peu en retard. J'étais un peu en retard à mon mariage. Si seulement je pouvais être en retard à mes funérailles. C'est là que j'aimerais vraiment être en retard. Très en retard. Non, ce sont les appels téléphoniques qui m'ont retenu à la maison. J'ai eu de la peine à me libérer. Aussi, comme ma femme et les autres sont partis tôt, j'ai dû m'occuper de tant de choses. En plus, j'ai dû prier pour des gens à différents endroits. Je viens tout juste d'entrer et la révélation du Seigneur est venue pour un frère. Il y a là au fond une sœur qui était malade. Vous savez ce que je veux dire. C'était juste une chose après l'autre, puis une autre et une autre. Je n'ai même pas pu serrer la main à certains de mes amis ici, qui viennent de la Géorgie et de partout ailleurs, même du Canada. Je me sens terriblement mal de ne pas avoir pu vous serrer la main. Et au fait, où est Fred ce soir? Fred Sothman. Fred, te souviens-tu de la fois où tu m'avais appelé du Canada pour me dire que tu venais? Et je t'avais dit de ne pas venir en voiture? Tu étais quand même venu. Tu avais eu un accident, comme sa voiture était très endommagée. Sa femme et sa famille auraient pu y perdre la vie. Il s'était cassé le nez et tous avaient été hospitalisés. Tout à l'heure, quand je m'apprêtais à partir, exactement à midi, frère Ben, que voici, était là dehors. Il est venu vers moi. Rosella est venue là. Elle a dit, « Je retourne à la maison. » J'ai dit, « Rosella. » Elle a dit, « Qu'est-ce qu'il y a, frère Branham ?» J'ai dit, « J'ai un drôle de sentiment à ce sujet. » Vous voyez ? Elle a dit, « Est-ce que quelque chose va arriver ?» J'ai dit, « Je ne sais pas. Il me semble que quelque chose m'a mis en garde. » Elle m'a appelé il y a quelques instants. Elle a eu un accident. Bon, personne n'a été blessé, mais c'était la main du Seigneur. Elle a dérapé. Les routes sont toutes glacées dans le nord, à Indianapolis. Elle a dérapé et elle s'est mise à glisser à toute vitesse en traversant la route, de ce côté-ci. Elle a crié, « Oh Seigneur, viens à mon secours !» La voiture s'est de nouveau retournée, comme ceci. Elle est revenue dans la bonne voie et a continué normalement. Elle a poursuivi son chemin. Elle a dit, « Oh là là, combien je suis reconnaissante de m'en être tirée !» Parce que d'autres voitures arrivaient sur la même voie, à toute allure. Donc, elle est allée de l'autre côté de la route, puis elle s'est arrêtée là-bas pour, je crois qu'il s'est passé quelque chose. Elle s'est arrêtée pour s'offrir une tasse de café, ou quelque chose de ce genre. Et juste avant qu'elle sorte de sa voiture, une autre voiture a heurté la sienne par derrière. Elle s'est fait heurter à son tour, puis c'était au tour de la suivante. Et elles se sont toutes empilées. Elle a dit qu'elle était un peu secouée, mais qu'il n'y avait rien de grave. Et elle voulait remercier le Seigneur. Elle a appelé pour demander à l'Église de remercier le Seigneur du fait qu'elle n'a pas été blessée ni rien. Et elle demande à l'Église de continuer à prier afin qu'elle puisse arriver chez elle. Voyez, c'est une nouvelle conductrice. Elle vient d'avoir son permis. Je suis donc vraiment reconnaissant. Mais ça rapporte toujours de prendre au sérieux les avertissements du Seigneur. Elle a dit, « Eh bien, a-t-elle dit, je vais manquer une journée de travail. » Que rapporte une journée de travail? La réparation de l'arrière de cette voiture coûte plus que ça, voyez? Alors c'est mieux de rester avec le Seigneur, pas vrai? S'il nous dit quelque chose, nous ferions mieux de nous en tenir à cela, parce qu'il a toujours raison, n'est-ce pas? Il a toujours raison. Maintenant, oh, c'est tellement ça a été une semaine tellement merveilleuse. Je ne sais tout simplement pas comment exprimer à Dieu et à vous tous ma gratitude pour cette merveilleuse semaine. Ces 8 jours de prédication ont été parmi les moments les plus heureux de ma vie. C'est vrai, j'ai tant appris du Seigneur et de sa douce miséricorde, tout ce qu'il a fait pour nous, et de voir son Esprit de nouveau agir dans l'Église. Je suis si heureux de voir que les dons recommencent à se manifester de nouveau dans l'Église. Voyez, maintenant, une fois que cela arrive, alors, quand on est absent, il semble que quelqu'un viendra, qu'il polluera simplement cela, vous savez, de sorte que les gens se mettront à faire n'importe quoi. Si vous déshonorez ces dons, Dieu vous déshonorera. Voyez, c'est vrai, vous devez les utiliser correctement. Et nous voulons cela quand c'est fait dans l'ordre, que le parler en langue se fait avec ordre. Il ne s'agit pas simplement de citer les Écritures, mais d'annoncer quelque chose qui est sur le point d'arriver. Et si vous faites vraiment preuve de respect à l'égard de cela, ça commencera. Si des gens dans l'Église agissent mal, le Saint-Esprit le leur fera savoir et dira de qui il s'agit. Et là, ils se sentiront châtiés et s'avanceront à l'autel. C'est à cela que servent ces dons. Et notre pasteur ici, Frère Neville, il était un genre de personne timide et effacée. Et je vous le dis, on aurait dit qu'il n'y arriverait jamais quant aux choses de la Pentecôte. Mais de le voir se lever, interpréter les langues et prophétiser, je vous le dis, il a fait d'énormes progrès. C'est vrai, prions pour notre pasteur. Et vous voyez, les dons commencent à venir dans l'Église. Un autre humble petit frère, ici, il est, devrait être quelque part ici. Je pense qu'il est là, il est toujours là. C'est un petit homme très humble. Il était l'un des administrateurs, ici, à l'Église. Frère Higginbotham, un précieux saint homme, et de voir qu'il a reçu le don du parler en langue. Qui aurait jamais pensé que frère Higginbotham aurait fait cela? Un homme timide et effacé, qui tenait vraiment à passer inaperçu partout, toujours en retrait. Mais vous voyez, Dieu peut prendre un homme comme celui-là et l'utiliser, voyez, puisqu'au départ, il ne veut pas le faire. Si c'est quelque chose qu'il désirait faire, il pourrait devenir un grand prétentieux. Mais tant qu'il ne cherche pas à le faire, alors Dieu pourrait l'utiliser de cette manière-là. Junie est ici, il est derrière le poteau, près de moi. Je dirais ceci, j'ai entendu beaucoup de gens parler en langue, et je pense que tout cela vient de Dieu, parce que vous ne pouvez pas produire un seul son sans qu'il signifie quelque chose pour quelqu'un, quelque part. Vous savez, la Bible dit, il n'y a aucun son qui soit sans signification. Autrement dit, chaque son signifie quelque chose. Vous ne pouvez pas faire le moindre son sans que cela signifie quelque chose. Je me suis souvent demandé comment cela était possible, jusqu'à ce que j'aille en Afrique et que j'entende tous ces bruits. Et là, j'ai découvert que c'était la voix de quelqu'un. Parfois, c'est une voix angélique et tout. Mais Johnny Jackson, un prédicateur de campagne, réservé, effacé, un peu timide, là, de l'église méthodiste, loin là-bas, là-bas dans les environs d'Elizabeth, en Indiana, tout au fond des bois, silencieux, il ne disait pas un mot, du genre timide. On aurait dit qu'il, parfois, quand je le voyais, j'avais envie de le prendre et de le secouer, et dire, « Dis quelque chose, Johnny, tu vois, ne reste pas simplement assis là, à me regarder comme ça. » Quand on s'asseyait sur une souche dans les bois, il s'asseyait là et disait, « Eh bien, je pense, c'est très bien. » Je disais, « Oh, Johnny, j'ai envie de dire, laisse-moi le dire à ta place. Tu vois, tu es trop long à mon goût, tu vois. » Et Dieu lui a donné un don de parler en langue. Je n'ai jamais entendu un langage si limpide de toute ma vie. Voyez, observez-le dans l'église. Vous avez entendu la petite femme qui a parlé ce matin sans connaître l'autre femme? L'une et l'autre ne se connaissaient pas. L'une d'elles exprimait cela avec une certaine intonation. Et quand l'interprétation était donnée, c'était avec la même intonation, les mêmes voyelles, la même ponctuation, exactement la même chose qui est exprimée. Et le message à l'église était parfait. Vous voyez ce qu'il en a? Alors, nous devrions remercier Dieu. Eh bien, ne bombez pas le torse. Si c'est le cas, vous ne faites que vous enorgueillir, et le diable s'emparera de vous. Soyez simplement humble. Dites, « Oh Seigneur, fais que je reste caché. Ne me laisse pas me lever avant le temps. » Il ne vous laissera jamais sortir des rangs. Si cela vous arrive à un moment donné, ça ne sera pas grave. Si cela vous arrive, eh bien le pasteur ici vous le dira. Vous voyez, les dons ne doivent pas opérer quand nous sommes en train de prêcher. D'habitude, si les dons commencent à bien fonctionner dans l'Église, nous vous demandons de vous réunir longtemps avant le service suivant, pour que le Seigneur travaille avec vous, vous voyez. Ainsi, à ce moment-là, il n'y aura pas du tout d'interférence avec cette partie-ci. Or, pendant que nous sommes dans l'Assemblée, vous devez parfois garder le silence pendant un moment. Mais si Dieu a un message, d'une manière ou d'une autre, il va le donner. Voyez, laissez-le s'en occuper, mais conduisez-vous selon l'enseignement de la Bible. Et Frère Neville donnera peut-être des enseignements là-dessus. C'est ce que nous essayerons de faire. J'essaierai de l'aider du mieux que je peux. Et nous deux ensemble, nous vous montrerons clairement comment cela doit être utilisé. Vous sentez-vous mieux, mon frère polonais? C'est très bien. Oh, comme le Seigneur l'a béni. il y a 8 ans, je lui avais dit que quelque chose se passerait. Il était complètement embrouillé, un trinitaire pur et dur. Et l'autre jour, le Seigneur a dit, « Il y a un homme qui arrive. Il a les cheveux noirs et les yeux bruns. Il est corpulent. Ne le renvoie pas, c'est moi qui te l'envoie. » J'ai pris exactement le passage des Écritures qui le troublait. Je l'ai noté sur un bout de papier et je l'ai posé là. Au bout d'un moment, voici qu'il est arrivé. Ma femme a dit, « Il y a un homme là dehors qui veut te voir. » J'ai dit, « C'est lui, fais-le entrer. » Et il m'a raconté ce qu'il lui avait été dit sous l'inspiration du Saint-Esprit, comment il avait toujours cru et qu'il s'en tenait au message et tout, parmi les siens. Quoi qu'il fût critiqué, il s'en tenait strictement à cela. Il a dit qu'il y a quelque temps, dans une réunion, je lui ai parlé et je l'ai appelé par son nom. Je ne saurais dire comment j'ai pu prononcer ce nom. Il a dit que j'ai dû l'épeler ou quelque chose du genre au cours de la réunion. Il a dit qu'il tenait un bébé dans ses bras qui avait une éruption cutanée sur le visage. Il a dit que le petit bébé en avait été complètement délivré, totalement, et que le Seigneur... Et j'ai dit, eh bien, ce qu'il vous faut maintenant, c'est d'aller à l'église et de vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas longtemps, je l'ai rencontré au sommet de la montagne, parce qu'il était venu et s'était fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Maintenant, il est tout heureux, il se sent bien, il compte rentrer chez lui. J'espère qu'un de ces jours, il sera mon interprète, en Pologne, en Allemagne, là-bas, dans ces pays-là. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère. Notre Seigneur accomplit tellement de choses merveilleuses et glorieuses. Rien que de voir sa miséricorde, de l'est à l'ouest, du nord au sud, il conduit ses chers enfants, il les rassemble, les fait sortir, les secoue. Il y a tant à dire. Maintenant, n'oubliez pas, dimanche soir prochain, si le Seigneur le veut, dimanche soir prochain, nous aurons dimanche matin prochain, plutôt, un service de guérison. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que s'il y a trop de cas le dimanche matin, je pourrais me rattraper le dimanche soir, voyez-vous. Mais si je peux m'occuper de tout le monde le dimanche matin, alors ce serait très bien. Mercredi soir, c'est la réunion de prière du milieu de la semaine. Eh bien, vous tous qui habitez dans les environs, réunissez-vous ici pour la réunion de prière. Ne manquez pas ça. Tenez-vous-en à cela. Voyez, priez, cherchez à être plus près de Dieu. Ne laissez jamais le fanatisme s'introduire parmi vous. Gardez, il y a trop de choses authentiques pour en accepter des fausses. Voyez, ne vous retrouvez pas du mauvais côté. Restez sur la bonne voie. J'ai entendu un « Amen » qui m'est familier et que je n'ai pas entendu depuis des années. Frère Russell Creech, on m'a dit que c'est Patty qui a parlé en langue là au fond l'autre soir. Patty, où es-tu? Es-tu là, ma chérie? Oui, oh là là, je ne l'aurais même pas reconnu si je l'avais vu. Mais je pense que j'ai tenu cet enfant dans mes bras et que je l'ai consacré au Seigneur, ici même. Et c'est une jeune femme, a dit Meda, une jeune et belle adolescente, qui est revêtue de la puissance du Saint-Esprit et qui parle en « Russell, tu es un homme riche. Oui, tu l'es. Où est Sir Creech? Je ne l'ai pas vu. Est-elle dans les parages? Là derrière. Oh, Sir Creech, comme je suis reconnaissant que Dieu vous ait donné une enfant comme elle. Eh bien, vous ne savez pas combien j'en suis reconnaissant. C'est l'âge où les adolescentes ricanent, rigolent, et ainsi de suite. Vous savez, elles font toutes sortes de sottises pour ces gars aux coupes de cheveux en queue de canard, ou des choses de ce genre. Et je vois cette jeune enfant parler en langue ici par la puissance du Saint-Esprit. Oh là là! Oh, combien de nombreux hommes ce soir, des prédicateurs pentecôtistes, seraient prêts à donner leur vie s'ils voyaient leur fille adolescente, qui est à une soirée de rock'n'roll, faire cela. Là, attache-y du prix, frère. Je connais le travail que tu abats là-bas, le long de l'autoroute. Je l'ai fait moi-même. J'ai souvent travaillé d'arrache-pied, mais frère, pour élever ses enfants. Mais souviens-toi, Dieu est fidèle. Il récompense. Oui, absolument. À moi, la rétribution. Que Dieu te bénisse, Patty. Ma chérie, je crois que je ne t'aurais pas reconnu si je t'avais vu. Mais n'abandonne jamais ce chemin étroit, ma chérie. Ne laisse jamais le diable mettre quoi que ce soit en toi qui aurait l'air d'une belle pomme dorée, parce que ce serait un citron. Vois-tu, rejette cela et n'y touche pas. Garde tes yeux bien fixés sur Christ, bien fixés sur la croix, et continue d'avancer, car l'heure est proche. Tu vois, il y a tant de choses, d'exhortations que je pourrais donner au sujet des bénédictions de Dieu. Je n'ai pas pu visiter beaucoup de gens toute cette semaine. Je n'ai pas prié pour plus de 50 personnes, je crois, avec toutes ces allées et venues, les cas urgents, tout ce qu'il y a eu et tout, mais j'étais occupé à étudier. Mais alors, dimanche prochain, nous prierons pour les gens, nous demanderons au Seigneur de descendre et de nous donner la grande puissance et de se manifester à nous, dimanche matin prochain, si le Seigneur le veut. Oh, ça me fait de la peine de commencer cet âge de l'Église, parce que je sais que c'est le dernier. Eh bien, c'est ici que l'on verra l'aboutissement des sept âges de l'Église. Avez-vous aimé ça? Maintenant, soumets-vous. Je dis ceci à la fin, comme je l'ai dit au début. Il se peut qu'il y ait beaucoup de choses. Il se peut qu'il y ait beaucoup de choses sur lesquelles vous êtes fermement en désaccord avec moi. Mais ne m'en voulez pas, voyez. Aimez-moi quand même, parce que peu importe ce que vous feriez ou ce que vous diriez, mon estime pour vous sera la même. S'il y a quoi que ce soit, j'en aurai encore plus, voyez. J'aurai encore plus d'estime pour vous. Mais je vous aime. Dieu le sait. Il n'y a aucun homme qui invoque le nom de Jésus-Christ que je n'aime pas. Aucun, voyez. Et je ne veux avoir aucune amertume ou indifférence, même si nous sommes fermement en désaccord. Si nous étions assis à une table et que l'un mange une sorte de tarte et l'autre une autre sorte, ce serait exactement comme ça l'est ici. Voyez, quand il s'agit de communier les uns avec les autres, nous nous aimons les uns les autres. Et si nous ne le faisons pas, alors nous devrions le faire. Et si nous n'irons jamais plus loin en Dieu tant que nous ne le ferons pas. Mais n'oubliez pas que le plus grand don de tous les dons, c'est l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et que je livrerai même mon corps pour être brûlé en sacrifice, et que j'aurai toute la science et tout, je ne suis rien. Alors, mais quand ce qui est parfait, c'est-à-dire l'amour, si tous les dons spirituels ne sont pas cimentés ensemble par l'amour, ça ne tiendra pas. Tout autre ciment se désagrégera, mais l'amour demeurera toujours. Voyez, c'est 1 Corinthiens 13. Bon, ce soir, nous entrons dans ce grand âge de l'Église. Oh là là, eh bien, il se peut que nous soyons là jusqu'à 21h15 ce soir. Et là, je suis vraiment désolé que nous n'ayons pas assez de place, mais pour installer tout le monde, faire asseoir tout le monde plutôt, mais nous n'en avons vraiment pas. Et peut-être qu'un jour, nous en aurons. Mais maintenant, j'aimerais vous demander de me rendre un service. Vous voyez ma position, et vous savez ce que cela me coûtera un de ces jours, voyez-vous, et l'heure est proche. Voyez, maintenant, j'aimerais que vous fassiez ceci. Priez toujours pour moi. Et souvenez-vous, j'ai été le plus honnête possible, voyez. Et je suis conscient que je ne suis plus un enfant. J'ai 51 ans. Et tant que Dieu ne m'appelle pas, je ne peux pas partir. Et je partirai de la façon dont il voudra que je parte. C'est tout, voyez. Mais je dois être honnête et dire la vérité, quoi qu'il en coûte. Donc, je sais que c'est parfois une marche solitaire. Mais tant qu'il est avec vous, quelle différence cela fait-il? Voyez? Maintenant, avant d'aborder ce grand âge de l'Église, je me demande si nous pourrions nous lever juste un instant maintenant pour la prière. Ça vous permet de vous étirer et de vous sentir mieux. En cette dernière réunion, y a-t-il... Combien ici voudraient qu'on se souvienne d'eux devant Dieu? Levez simplement la main vers Dieu. Souviens-toi de moi, ô Seigneur, à la fin de cet âge. Quand la vie sera terminée, souviens-toi de moi. Notre Père Céleste, nous n'avons pas assez de langue pour exprimer notre gratitude pour la présence du Dieu vivant qui était parmi nous au cours de cette semaine, pour les choses que nous avons apprises de toi, pour la manière dont tu t'es révélé à nous pendant tout ce temps et pour la manière dont tu as rendu ta parole si claire pour nous. Combien nous nous sommes attendus à toi et combien nous avons essayé d'exprimer notre amour et que nous n'avons pas pu le faire, Seigneur, parce que les langues des mortels ne le peuvent pas. Pour de nous avoir même sauvés et tu de nous avoir même donné une faim de toi. Car il est écrit dans la parole, « Heureux ceux qui ont faim ». Le simple fait d'avoir faim est une bénédiction. Faim et soif de la justice. Puis, tu as fait cette glorieuse déclaration, « Car ils seront rassasiés ». Eh bien, nous croyons cela, Seigneur. Pardonne-nous nos manquements. Et alors que nous traitons ce soir l'heure de ce dernier âge de l'Église, celui de Laodicée, et que nous avons vu les Écritures et l'histoire correspondre parfaitement chaque fois. Ainsi, Père, nous savons, quant à ta glorieuse déclaration prophétique au sujet de ce dernier âge, qu'il en sera exactement comme il en a été pour les six autres âges. Père, je te prie de laisser le Saint-Esprit venir à nous ce soir. Maintenant, aide-nous bénir alors que nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Si le Seigneur le veut, le livre sera dès que possible. Frère Léo est en train d'extraire cela des bandes magnétiques pour que ce soit pris en sténo et ensuite dactylographié, puis mis sous forme de livre. Et en passant, le livre de Rosella paraîtra bientôt, une alcoolique sauvée. Vous vous souvenez tous de son histoire, comment le Saint-Esprit l'a appelée lors d'une réunion. Elle qui avait été abandonnée par quatre des plus grands établissements pour alcooliques et rejetée des hôpitaux de Chicago. Et le Seigneur Jésus, en un instant, l'en a totalement délivrée. Elle va dans des prisons et à divers endroits pour dire aux gens que Dieu peut délivrer. Elle parle aux alcooliques et tout. Et là, par son témoignage, elle a gagné beaucoup de gens à Christ. Maintenant, pouvez-vous me dire quel était le premier âge de l'Église? Éphèse. Le deuxième, Smyrne. Le troisième, Pergame. Le quatrième, Thyatire. Le cinquième, Sardes. Le sixième, Philadelphie. Le septième, Laodicée. Le premier, c'était de l'an 55 à 170 après Jésus-Christ, celui d'Éphèse. Smyrne, de 170 à 312. Pergame, de 312 à 606. Thyatire, 606 à 1520. Sardes, de 1520 à 1750. Philadelphie, de 1750 à 1906. Là, c'est le début de l'âge de Laodicée, le chevauchement. Et hier soir, nous avons traité de ce petit chevauchement. Eh bien, ce soir, nous aborderons la fin de Laodicée. Nous croyons que l'église de Laodicée a commencé en 1906, après Jésus-Christ. Je prédis. Donc, souvenez-vous-en bien, je prédis, surtout vous qui écoutez la bande. Je ne dis pas qu'il en sera ainsi, mais je prédis que cet âge se terminera d'ici 1977, que l'Église entrera complètement dans l'apostasie et qu'elle sera vomie de la bouche de Dieu, et que la seconde venue, ou l'enlèvement de Christ, pourrait se produire à tout moment. Eh bien, je pourrais me tromper là-dessus d'une année, je pourrais me tromper de 20 ans, je pourrais me tromper de 100 ans. Je ne sais pas quand cela, mais c'est juste une prédiction que je fais à ce sujet, d'après une vision qu'il m'a montrée. Et si je tiens compte du temps, au vu de la manière dont les choses évoluent, je dirais que cela arrivera quelque part entre 1933 et 1977. Pour le moins, cette grande nation entrera dans une guerre qui la mettra en pièces. Voyez? Or, c'est très proche. C'est terriblement proche. Je pourrais bien me tromper. Je fais une prédiction. Est-ce que tout le monde comprend cela? Dites Amen, si vous comprenez. Voyez? Mais en 33, en 1933, le Seigneur m'a montré en vision une femme très puissante. C'est noté sur papier. Comment Roosevelt provoquerait, il avait entraîné le monde dans une guerre. Comment Mussolini ferait sa première invasion en Éthiopie et qu'il s'en emparerait, mais qu'il aurait une fin honteuse. Et comment les trois ismes, le nazisme, le fascisme et le communisme, finiraient tous dans le communisme. Combien ici se souviennent que j'insistais? Je vous faisais lever et je répétais ainsi, je disais, observez la Russie, observez la Russie, le roi du Nord, observez la Russie, le roi du Nord, observez la Russie, le roi du Nord. Combien m'ont entendu le dire, le répéter encore et encore, les vieux de la vieille, vous voyez, là, au tout début de l'Église, Je me tenais là et le répétais encore et encore. Observez la Russie, le roi du Nord. Vous voyez ce qu'il ferait, car tous ces ismes finiront par aboutir en Russie. Puis j'avais dit, cette nation entrerait finalement en guerre contre l'Allemagne. Et l'Allemagne construirait un mur de béton. Et ça, c'était la ligne Maginot. 11 ans avant même qu'ils en entreprennent la construction. 11 ans à l'avance. J'avais dit, les Américains subiront une terrible défaite à cette ligne. Certains frères ici ont été à cette ligne, frère Roy Robertson et d'autres. Demandez-leur ce qui s'y est passé. C'était bien le cas, certainement. Très bien. Mais finalement, avais-je dit, nous vaincrons. Nous serons parmi les vainqueurs de la guerre, entre nous et l'Allemagne. Maintenant, j'avais dit, après cela, la science ferait de grands progrès. C'est arrivé. Ils ont fabriqué la bombe atomique et tout. J'avais dit, ce progrès les amènerait à fabriquer des voitures qui prendraient de plus en plus la forme d'un œuf. Vous souvenez-vous de ces très grands capots qu'on utilisait en 1933 et de la très grande partie arrière qui descendait comme ceci, avec la roue de secours à l'arrière? Regardez comment c'est devenu maintenant. Voyez, ils ont un profil aérodynamique. Voyez, comme un œuf. Et j'avais dit, finalement, ils inventeront une voiture qui n'aura pas besoin de volant à l'intérieur. J'avais vu une famille qui roulait sur, disons, une route, dans une voiture au toit vitré. C'était sur de très belles et grandes routes, et c'était une belle voiture. Ils étaient assis là à se regarder, et la voiture roulait toute seule. Elle prenait les virages et tout. Et ils ont cette voiture en ce moment. Elle a déjà été inventée. Ils ont cette voiture. Et j'avais alors dit, oh, combien la science progressera en ce temps-là. J'avais dit, puis j'ai vu ils donneront aux femmes le droit de vote. Et ils sont en train de le faire. Et par leur vote, elles éliront l'homme qu'il ne fallait pas, un de ces jours. Et c'est ce qu'on a fait aux dernières élections. C'est grâce au vote des femmes que Kennedy a été élu. Nous le savons, voyez. En plus des machines truquées et les fraudes que le FBI a dévoilées. Et comment quelqu'un pourrait-il? Pourquoi ne font-ils rien à ce sujet? Pourquoi n'en parle-t-on pas? Ah, les gens ont peur de perdre leur poste. Vous voyez, ce n'est qu'une bande de politiciens pourris jusqu'à la moelle. C'est tout, certainement. Il n'y a pas de salut dans cette nation. Il n'y a pas de salut dans aucune nation. Le salut, c'est en Jésus-Christ et en lui seul. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, je suis reconnaissant pour l'Amérique. Je préférerais vivre ici que partout ailleurs dans le monde. Parce que, à l'exception du Canada, le Canada et les États-Unis sont jumeaux. Nous le savons. Ce sont des pays voisins, des endroits merveilleux. Mais je crois que je préférerais vivre ici plus que partout ailleurs, parce que c'est ma patrie. Je suis heureux d'être un Américain, et j'en suis reconnaissant. Mais je vous le dis, elle a absolument besoin d'un contre-réveil. Certainement. Et elle ne l'aura pas. Non, monsieur. Elle ne se relèvera plus jamais. Non, monsieur. Elle est fichue. Vous vous souvenez, il y a environ 5 ans, à Chicago, c'est enregistré. Tu l'as, Jean. J'avais dit, soit ils l'accepteront cette année, soit ils iront de déclin en déclin. Et c'est ce qu'ils ont fait, voyez. Et ils continueront ainsi jusqu'à ce qu'elle soit finalement détruite. Mais il y aura une femme puissante. Maintenant, souvenez-vous-en. Ça aussi, c'est enregistré. Une femme puissante, une femme importante. Elle sera soit président ou ce sera une femme qui représentera l'Église catholique. Et je pense que c'est bien cela. Qui prendra le pouvoir ici un de ces jours et elle gouvernera ce pays. Cette nation est la nation de la femme. Son drapeau était conçu par une femme. C'est le nombre 13. Elle a commencé avec 13 étoiles, 13 bandes, 13 colonies. Tout est 13, 13, 13, d'un bout à l'autre. Il y a maintenant 13 étoiles sur sa pièce d'argent d'un dollar. Tout est 13. C'est le nombre 13. Et elle apparaît au chapitre 13 de l'Apocalypse. 13 d'un bout à l'autre. Tout est femme, 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 d'un bout à l'autre. Et elle s'est emparée de toutes les fonctions. Elle s'est emparée d'Hollywood. Elle s'est emparée des nations. Elle s'est emparée des fonctions. Elle s'est emparée de tout ce qu'il y a. L'égalité des droits avec l'homme, elle vote comme un homme, jure comme un homme, boit comme un homme, et tout. Elle n'est qu'un appât pour l'Église catholique, quant au culte de la femme. De toute façon, ils adorent déjà la femme. Elle est le meilleur. Une femme immorale est le meilleur appât que le diable ait jamais eu. Elle est pire que tous les bars qui ont jamais existé. Elle peut envoyer plus d'âmes en enfer que tous les bars du pays. C'est vrai. Une femme bonne est un joyau sur la couronne d'un homme, a dit l'homme le plus sage de la terre. Un homme devrait honorer une femme bonne, voyez. Mais une femme mauvaise, c'est de l'eau dans son sang. Et son sang, c'est sa vie. Vous, les hommes, y avez de bonnes épouses. Vous ne savez pas combien vous devriez remercier Dieu pour une bonne épouse. Car si Dieu pouvait donner comme aide à l'homme quelque chose de meilleur, il l'aurait fait. Mais une femme est la meilleure aide que Dieu puisse donner à un homme. Mais quand elle dévie, c'est elle que Satan a choisie comme instrument dans le jardin d'Éden. Il n'a pas pris l'homme, il a pris la femme. Pourquoi n'est-il pas allé vers Adam pour lui susciter des passions? Il est venu vers la femme et lui en a suscité, voyez, parce que c'est elle qu'il avait choisie. Dieu a pris l'homme et Satan a pris la femme. Et regardez tout au long, jusqu'à la fin, quand Babylone a été établie au commencement, les deux Babylones dislopent une femme. Puis cela a continué tout au long des âges. Maintenant, l'âge des nations se termine. C'est ainsi qu'a commencé Babylone. Et ça se termine avec l'adoration d'une femme dans l'Église, Marie. Quel jour que celui où nous vivons! Maintenant, Laodicée, l'âge de Laodicée, ce mot signifie tiède. Il s'est enrichi et il pense qu'il n'a besoin de rien. Mais la Bible dit qu'il est malheureux, aveugle, misérable et nu. Quelle condition! La récompense de ceux qui vaincront dans cet âge de l'Église, c'est de s'asseoir avec le Seigneur sur le trône. Bon, l'étoile, ou l'ange, ou le messager de cet âge de l'Église, il est inconnu. Eh bien, le messager du premier âge de l'Église, qui était-ce? Paul, Éphèse, Smyrne, Irénée, Pergame, Saint-Martin, Thyatire, Colomba, Sardes, Luther, Philadelphie, Wesley. Et dans cet âge de l'Odyssée, on ne le sait pas encore. Et on ne le saura probablement pas avant que tout soit terminé. Mais je voudrais juste vous citer mes notes au sujet de ce que sera cet ange, de ce que nous attendons. Seriez-vous d'accord? Comme nous avons un peu de temps, j'ai juste écrit une petite note ici par rapport à ce que j'en pense. L'ange de cette église de Laodicée, pour terminer cet âge-là, eh bien, il viendra à la fin de l'âge, comme tous les autres, comme dans la Bible, il viendra à la fin de l'âge, pas à son début, à sa fin, parce que l'ange vient toujours pour réprimander à cause les gens pour ce qu'ils ont fait. Écris ces choses à l'ange de l'église de Laodicée. Voyez, écris ces choses à l'ange de l'église de Smyrne. Voyez, chacun d'eux est adressé à l'ange, à la fin de l'âge. Paul, c'était à la fin de l'âge, et ainsi de suite, à la fin de l'âge. Le chevauchement, à la fin de l'âge. À la fin de l'âge, c'est ce qui fait qu'il y a chevauchement. Voyez-vous, à l'ange fait référence à qui ça s'adresse. Ce chevauchement, ici, à l'ange, à la fin de cet âge-là, voyez, ça commence ici et ça se chevauche comme les marches d'un escalier qui monte, les sept âges de l'Église. Maintenant, cet ange qui vient sur la scène en ce jour-ci, j'ai quelque chose d'écrit ici et j'aimerais le lire. Mais on le reconnaîtra dans la dernière partie de l'âge. Et comme nous sommes si proches de cet âge de lumière, c'est possible qu'il soit sur la terre maintenant. Voyez, on ne le connaît pas. Il sera un puissant prophète qui sera rejeté par le monde ecclésiastique. Car ils continueront dans leurs péchés et seront finalement vomis de la bouche de Dieu, de la bouche, de la présence de Dieu. Je crois que ce sera quelqu'un comme Élie. Je vais vous donner mes raisons. Maintenant, prenons ici, dans le livre de Malachie, un petit instant. Je vais vous dire pourquoi je pense que ce sera quelqu'un loin de l'esprit d'Élie. Là, j'aimerais que vous vous revêtiez de la casquette de la grâce. Malachie, chapitre 4. Maintenant, écoutez alors que je lis et que vous suivez dans votre Bible. Maintenant, réfléchissez très sérieusement pendant les prochaines minutes, là, avant que nous abordions cet âge de l'Église. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains, tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient, qui les embrasera, dit l'Éternel des armées, et il ne leur laissera ni racine ni rameau. Qu'est-ce qu'il dit? Il parle d'un jour qui vient. Êtes-vous d'accord là-dessus? Du jour de la venue du Seigneur. Mais pour vous, maintenant, regardez là, il répond à Israël. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Car voici, le jour vient, bien plus tard, ardent. Mais à vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées, pas le jour où l'on brasera la terre, nous foulerons leurs cendres. C'est le millénium, bien sûr. Voyez? Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et une ordonnance. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, un jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants aux pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Fin de l'Ancien Testament. Maintenant, Jésus a dit, dans Matthieu 17, 10, il est question de ceci. Tous les Juifs attendent cet Élie qui doit venir. Maintenant, regardez ce que Jésus a dit à ce sujet. Matthieu 17, 10. Nous commencerons au verset 9. Matthieu 17, 9. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne dites à personne là, ne parlez à personne de cette vision. Voyez, n'en parlez pas. Vous le savez, mais gardez cela pour vous. Ne dites à personne la vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. N'en parlez pas. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes ont-ils dit qu'Élie doit venir premièrement? Pourquoi Élie doit-il venir premièrement, avant que le Christ vienne, le soleil de justice? Pourquoi ont-ils dit cela? Voici, tu es déjà ici. Pourtant, les scribes disaient qu'Élie devait venir premièrement. Maintenant, regardez. Il répondit, il est vrai qu'Élie viendra, doit venir, et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, que vous ne l'avez pas reconnu. Voyez, il n'a pas dit qui était cet Élie. Voyez, et qu'ils l'ont traité comme vous avez voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir. Maintenant, regardez, je retourne de nouveau à Malachie, chapitre 4. Or, souvenez-vous, il a dit ici, « Avant que le jour grand et noble, redoutable de l'Éternel arrive, je vous enverrai Élie le prophète. » Verset 5. « Mais je vous enverrai le prophète, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour arrive, ce jour grand et redoutable de, que voyons-nous au jour de l'Éternel? À la fin de l'âge, c'est à ce moment-là que le monde sera brûlé. Vous vous souvenez que nous l'avons vu avec une perruque blanche, vous savez, et qu'il portait une ceinture sur la poitrine sur le thorax. Vous vous souvenez de ça? Nous avons prouvé par la Bible que ce n'était ni le jour du sabbat, ni le dimanche. C'était le jour de l'Éternel. Pas vrai? C'est le jour où il vient en tant que juge. Là, il frappera le pays d'interdit. Pas vrai? Et je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Maintenant, observez, Élie vient plusieurs fois. Bon, si vous remarquez, toute écriture a plus d'un sens, mais c'est caché aux yeux des sages et des intelligents et révélé aux petits-enfants qui sont disposés à apprendre. Ne croyez-vous pas cela? Maintenant, retenez ce passage de Malachie 4.
Let's go back to Matthew 2, just a minute. Just right across the page. Matthew 2.
Et maintenant, revenons à Matthieu 2, un petit instant. Juste de l'autre côté de la page. Matthieu 2. Je crois que j'aurais dû dire Luc 2 au lieu de Matthieu 2. Je l'ai noté ici, mais je me dépêchais il y a quelques instants. Et le Saint-Esprit était sur moi dans la pièce, et je passais vraiment de bons moments. Donc, je voulais dire deux. Voyons voir si c'est ça. Bon, laissez-moi étudier ça juste un instant. Matthieu 2. Ce n'est pas ça que je cherche, n'est-ce pas? Bon, juste un instant. Je vais le trouver dans un... Permettez-moi de prendre un peu de temps ici, parce que j'aimerais m'assurer que vous comprenez bien cela, que l'Écriture a plus d'un sens qui s'y rattache. Adoration d'Anne, retour à Nazareth, la Pâque, ministère de Jean. Maintenant, laissez-moi voir s'il s'agissait de Luc. Je lisais quelque part et... Je veux dire Marc et non Luc. C'était peut-être Marc. Mais j'aimerais que vous preniez ce passage de l'Écriture pour que vous sachiez que c'est l'œuvre du Seigneur, qu'il le fait vraiment de cette manière-là. Eh bien, que je vous dise ce que je cherche. C'est là où il est dit, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Y a-t-il quelqu'un qui a des notes inscrites en marge et qui pourrait rapidement le localiser ou trouver cela? « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». « J'ai appelé mon fils ». Bon, juste un instant. Luc 1, 17. Merci, frère. C'est cela. Luc 1. Marc, Luc 1, 17. Au lieu de 2, je veux prendre le verset 14. C'est là que... C'est ça, frère. C'est exactement ça. Luc 1, 17. Très bien. Bon, là, vous pouvez le noter. Maintenant, ce qu'il en est, c'est à la suite des bénédictions du Seigneur que celui-ci a été béni. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Dès sa naissance, il sera enseigné à cet homme qui naîtra de ne pas boire et de n'avoir rien à faire avec de tels péchés. Vous saisissez? Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ainsi donc, nous voyons bien qu'il avait été annoncé par prophétie, et c'est de Jean qu'il était question. Pas vrai? Jean était l'Élie de ce jour-là, celui qui devait venir. Or, nous savons aussi qu'un passage de l'Écriture a parfois deux significations. Il peut y être dit quelque chose comme là, dans Matthieu, où il est dit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Eh bien, je crois que c'est ce que je cherchais. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Et puis, quand vous parcourez la référence du mot « fils », là, il était, n'était pas. Cela renvoie à Osée, ce qui ne signifiait pas qu'il s'agissait de Jésus, son fils. C'était Israël, son fils. Il a appelé Israël hors d'Égypte. Mais cela avait plus d'un sens et une plus large signification dès lors que cela se rapportait à la venue de Jésus. Parce que cela était plus important qu'Israël quand il appelait Israël à sortir. Très bien. Maintenant, nous voyons aussi que sa première venue n'était pas au jour de l'Éternel. Pas vrai? Maintenant, revenons à Malachie. Mettons d'abord ça au clair. La venue au jour de l'Éternel. Maintenant, observez qu'il vient plusieurs fois. Sa première et sa seconde venue. Est-ce que votre entendement spirituel est prêt? Le verset 6 maintenant. Il enverra Élie avant le jour de l'Éternel. Ce jour grand et redoutable. N'est-ce pas? Maintenant, nous voyons bien que ça, ce n'était pas Jean, parce que ce n'était pas le jour redoutable de l'Éternel, n'est-ce pas? Et il n'a pas non plus brûlé la terre. Donc, ça signifiait probablement une vision préalable, ou une autre future venue de Jean, ou d'Élie, pas vrai? Il dit en effet, « J'enverrai Élie et je brûlerai la terre entière. Je la purifierai et vous marcherez sur leurs cendres. » Ça, c'est le millénium. Nous savons cela. Après que la bombe atomique l'aura fait voler en éclats, alors il y aura, la terre se redressera. Et il y aura un jour glorieux ici sur la terre. Et l'Église régnera avec Jésus sur la terre pendant 1000 ans. N'est-ce pas? Mais avant ce jour grand et redoutable de l'Éternel, quand on la fera voler en éclats, je vous enverrai Élie le prophète. N'est-ce pas? Donc, dans ce cas-là, il ne s'agissait pas de Jean-Baptiste, parce que le jour redoutable de l'Éternel n'est pas arrivé à ce moment-là. Nous sommes 2000 ans plus tard, n'est-ce pas? Maintenant, regardez le verset suivant, et soyez vraiment spirituels maintenant. Bon, c'est une lettre d'amour, et vous devez lire entre les lignes. Et là, ça devient clair. Vous comprenez ce que je veux dire? Souvenez-vous de ce que j'ai dit de ce verset de l'Écriture. Jésus a loué Dieu de ce qu'il avait caché cela aux sages, à leurs yeux et aux intelligents, et de ce qu'il avait révélé cela aux enfants. Eh bien, j'ai souvent pris l'exemple de ma femme quand elle m'écrit une lettre. Je vois bien ce qu'elle dit dans la lettre, mais je lis entre les lignes pour comprendre ce qu'elle veut dire. Voyez, parce que je l'aime et je connais sa nature. Vous devez connaître la nature de Dieu et l'aimer. Alors les Écritures deviennent claires pour vous. Il les révèle. Maintenant, prêtez attention au verset suivant. Et il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Maintenant, observez. Et les cœurs des enfants aux pères. Voyez? Eh bien, quand Jean est venu en tant qu'Élie, il a ramené le cœur des Israélites, le cœur des enfants qui acceptaient son message, le cœur des pères aux enfants. Mais quand il viendra cette fois-ci, il ramènera le cœur de l'Église au père de la Pentecôte. Vous voyez, là, c'est vice-versa. Vous saisissez? Maintenant, lisez cela. Donc, écoutez attentivement maintenant. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants. Voici ce que leur dira le vieux sacrificateur orthodoxe. Eh bien, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Ne pensez-vous pas que vous pouvez... Voyez? Maintenant, il prendra les cœurs endurcis des vieux sacrificateurs orthodoxes et ramènera leurs cœurs à la foi que les enfants avaient ici. Vous voyez? Maintenant, tous ceux qui se sont fait baptiser et qui attendent la venue du Messie. Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Oh là là, vous voyez? Il ramenait le cœur des pères aux enfants. Et le cœur des enfants au Père. Alors, quand ce grand Élie-ci viendra, à la fin de cet âge, il s'appuiera sur le message de la Pentecôte pour ramener les enfants à la foi des Pères. Puisqu'il les réprimandera de n'avoir pas gardé cette même foi qui était là au commencement. Amen. Maintenant, je crois que nous voyons bien qu'il s'agira d'Élie, n'est-ce pas? Maintenant, nous le savons. Et cela, maintenant, vous voyez, le jour redoutable du Seigneur n'est pas encore venu. Je me suis souvent demandé, cet homme serait-il donc un simple prédicateur? Élie a seulement accompli des miracles. Il n'a pas prêché. Mais quand son esprit est venu sur Jean, il a seulement prêché et n'a accompli aucun miracle. Pourquoi? Jésus allait venir après lui, et c'est lui qui allait faire des miracles. car le soleil de justice se lèvera, a-t-il dit, avec la guérison sous ses ailes. Jean n'avait donc pas besoin d'accomplir de miracles. Tout ce qu'il avait à faire, c'était d'annoncer la venue de Christ. Et il... Maintenant, souvenez-vous, ce Jean, ou cet Élie qui doit venir, sera mal compris. Il sera un homme tellement puissant devant le Seigneur que les gens le prendront vraiment pour le Messie. En effet, ses meilleurs amis lui ont dit, « Tu es le Messie !» Il a dit, « Je ne suis pas digne de délier ses souliers, mais il vient après moi. » En effet, en ce temps-là, ils étaient dans l'attente d'un Messie. Ils pensaient que le Messie viendrait. Quand ils ont vu ce glorieux phénomène s'élever parmi eux, ils ont dit, « C'est le Messie !» Jean a dit, « Je ne le suis pas, mais il vient après moi. » Oh là là, vous saisissez? Ainsi, ses amis intimes penseront qu'il est le Messie. Maintenant, remarquez une autre chose qui arrivera par rapport à celui-ci. Il viendra juste avant le jour du Seigneur. Eh bien, la terre n'a pas été brûlée au jour de Jean. C'est donc dans le futur. Quand il est venu la première fois, il a seulement prêché. La deuxième fois, il y aura la foi, la prédication et les miracles promis par Jésus-Christ. Très bien. Examinons maintenant sa nature, ce qu'elle sera, la nature de ce prophète qui doit venir. Bon, nous sommes convaincus que l'ange de ce dernier âge de l'Église a été annoncé depuis l'Ancien Testament. Par contre, tous les autres ne l'étaient pas. Paul et Irénée n'ont pas été annoncés. Mais quant à ce dernier âge, la fin de toute chose, la fin du monde, c'est un temps vraiment prodigieux que nous avons juste devant nous. Donc, l'ange de cet âge-ci a été annoncé très longtemps à l'avance dans les Écritures, dans les anciens passages de l'Écriture. À la fin de cet âge-ci, c'est Élie, un grand oint. Maintenant, observez, quel genre de nature aura cet Élie? Premièrement, il sera un puissant prophète, fidèle à la parole de Dieu, car Élie était fidèle et Jean était fidèle. C'est vrai. Il accomplira des signes et des prodiges. Il ramènera le cœur des enfants à la foi des pères de la Pentecôte. Il haïra les dénominations, comme Élie. C'est vrai, il les haïra. Je pense que les choses commencent à se mettre en place pour lui maintenant. Il est grand temps qu'il vienne. Il haïra les dénominations. Élie les haïssait. Et Jean aussi haïssait la dénomination. Jean a dit, « Ne venez pas en vous disant, « Nous avons Abraham pour père. Vous, les pharisiens et les sadducéens, vous, bande de vipères, des serpents dans l'herbe, en d'autres termes. Car je vous le dis, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Élie a dit, « Ils se sont tous égarés, eux tous. Il ne reste que moi seul. » Oh là là! Il haïra aussi les femmes sophistiquées. Élie l'a fait. Jézabel, pas vrai? Jean l'a fait. Hérodias. Les deux étaient prophètes. L'esprit, c'était le même esprit. Il haïssait le monde dénominationnel, le monde ecclésiastique. Il haïssait aussi les femmes sophistiquées, qui ne valent rien. Quelque chose dans leur esprit criait contre cela. Jézabel réclamait la tête d'Élie. Elle voulait le faire décapiter. Elle a aussi fait décapiter Jean. Hérodias l'a fait. Les deux. Ce prophète aimera les régions sauvages. Comme Élie, il vivait dans les régions sauvages, seul. Jean, dans les régions sauvages, seul. C'est ainsi que nous savons que ce sera Élie. Très bien. Et ce prophète sera quelqu'un qui s'en tiendra à la vraie parole de Dieu. Oui, il s'en tiendra à elle, à toute la parole. Pour quelle raison? Afin de rétablir la foi de l'Église d'Éphèse, qui était perdue pendant tout ce temps. La foi dans l'Église qui avait une porte ouverte, mise devant elle, et qui a rejeté cela. Il ne sera pas un homme instruit. Élie, le Tishbite, n'était pas un homme instruit. Jean n'était pas un homme instruit. Dans Luc 1, 67, la Bible dit qu'il était, que l'enfant était dans, dès qu'il est né, Il est parti dans les régions sauvages. Il est resté dans les régions sauvages jusqu'au jour où il était présenté à Israël. C'est vrai, Luc 1, 67, jusqu'au verset 80, si vous voulez le noter. Ce prophète sera aussi un homme mélancolique. Élie, après avoir eu cette grande réunion, personne ne pouvait s'entendre avec lui. Élie avait des passes. Quand il est allé là-bas, a fait descendre le feu du ciel et a consumé les autels de Baal et tout. Il s'est retiré dans le désert et a dit, « Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères, que je meure. » Pas vrai? Et Jean, il s'est assis sous un genêt après le grand réveil. Et là, il voulait mourir. Et Jean, quand on l'a jeté en prison, cette femme impure, il s'est assis là et il est devenu mélancolique. Je crois que c'est Pember ou quelqu'un d'autre qui a dit, « En prison, son œil d'aigle a été voilé. » Il a envoyé certains de ses disciples. Eh bien, c'est lui qui avait fait la déclaration. Il avait dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean a vu la colonne de feu suspendue au-dessus de lui comme une colombe. Elle est descendue et s'est posée sur lui. Il en était témoin et a dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Et il a dit, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Pourquoi viens-tu à moi ?» Jésus a dit, « Laisse faire maintenant. » Mais quand on l'a jeté en prison, très vite, il a eu le cafard. Vous voyez, c'était plutôt difficile. Il avait de la peine à se ressaisir. Et là, il a dit, « Allez lui demander s'il est vraiment celui-là ou devons-nous en attendre un autre qui doit venir ?» Exactement comme avait fait Élie, vous voyez, exactement pareil. Il était un homme du genre mélancolique. Alors, nous avons de la peine pour lui parce que nous savons ce que c'est. Très bien. Bon, maintenant à l'Église, quand il se manifestera, je ferai mieux de laisser ça de côté. Quand il se manifestera, l'Église, quand il se fera connaître, ce puissant Élie que Dieu nous enverra, quand il se fera connaître, comme l'avait fait Élie, l'Église était prête à être délivrée. Et elle avait été délivrée des mains du paganisme, n'est-ce pas? Juste au moment où il s'était présenté là-bas et avait dit, « Nous allons prouver qui est Dieu. » Élie avait délivré l'Église. Quant à Jean, exactement comme Jean l'avait fait, quand il avait vu Jésus, il avait dit, « Je dois diminuer et il doit croître. » Jean avait commencé à prêcher. Il s'était fait connaître juste avant la venue du Seigneur, tout juste à la fin, la manifestation. Très bien. Maintenant, nous voyons qu'Élie doit représenter quelque chose pour cet âge de l'Église, pour prouver que c'était Élie. Élie, après avoir donné sa prophétie, Élie n'a pas eu besoin de mourir. Il a été enlevé et est monté au ciel. C'est un type de l'Église. À la fin, c'est Élie qui doit venir, à la fin de son temps. L'Église ira dans l'enlèvement, sans passer par les ombres de la mort. Ce sera l'enlèvement. Je crois que le grand Élie, ce grand personnage qui doit venir, sera cet Élie qui est oint et qui a été annoncé pour les derniers jours. Amen. Je crois que quand il viendra, il sera l'ange ou le messager envoyé à l'Église dans les derniers jours. Un peuple rejeté, dégradé, comme le sera cette Église, et elle l'est déjà. Je crois que la Bible a promis la venue d'Élie. Je crois que nous pouvons comprendre ça, que celui dont la Bible a promis la venue en ce jour, c'est Élie. Croyez-vous cela? Bon, prenons maintenant l'Odyssée et voyons ce que notre Seigneur a à nous dire au sujet de l'Odyssée ce soir. L'Odyssée. Très bien. La salutation à l'Église, à l'ange du Seigneur. C'est le verset 14 du chapitre 3 d'Apocalypse. Écris à l'ange du Seigneur de l'Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, et le commencement de la création de Dieu. Oh là là, nous avons toutes, si nous pouvions passer toute la soirée sur ces seuls points, oh combien le Seigneur nous en donnerait la révélation. Regardez, l'Amen est le dernier. Il est apparu tout au long et tout. Mais voici que dans le dernier âge de l'Église, il est dit, « Je suis, voici la fin, Je suis le dernier. Maintenant, pour montrer qu'il était aussi le premier, et c'est ce qu'il était en effet, il est le commencement de la création de Dieu. Oh, le saisissez-vous? Voyez? Comment Dieu pourrait-il être créé s'il est en esprit? Comment est-ce possible? Il est éternel. Il n'a jamais été créé. Il ne sera jamais créé, parce qu'il était Dieu dès le commencement. Mais celui qui est le commencement de la création de Dieu, c'était Jésus-Christ, quand il était manifesté, quand Dieu a vécu en lui. Il est la création de Dieu. Oh là là! Voyez, le premier et le dernier, l'Amen, le commencement de la création de Dieu. Quand Dieu s'est créé un corps, il est descendu et y a vécu. C'était là le commencement de la création de Dieu. Voyez, oh, n'est-il pas merveilleux? Maintenant, nous voyons premièrement qu'il a montré sa divinité, juste ici. Je suis le Tout-Puissant. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Le Tout-Puissant. À l'église d'Éphèse, cela est dit trois fois, n'est-ce pas? Quand on arrive à Laodicée, il a dit, « Je suis l'Amen. J'étais le premier ici, je suis le dernier ici, et je suis le commencement de la création de Dieu. » Tout au long des âges de l'Église que nous aurons, vous connaîtrez que je suis Dieu, Dieu créé sous la forme d'un homme. Je suis le commencement de la création de Dieu. Amen. Cela ferait pousser des cris en presbytérien. Pensez-y un peu. Le commencement de la création de Dieu. Maintenant, oh, comme j'aime cela. La création de Dieu. Quand Dieu a été créé, quand Dieu s'est fait chair en Jésus-Christ et a habité parmi nous. Maintenant, le verset suivant, par rapport aux autres églises, devrait être des éloges, mais il n'a pas fait d'éloge à cette église. Il avait un reproche à lui faire. Pas un éloge. Il ne leur a fait aucun éloge à cet âge de Laodicée. Si l'on tient compte de toute la lumière qu'ils avaient reçue et qu'ils avaient rejetée, ils ne méritaient aucun éloge. Ah oui, il fallait qu'ils reçoivent une réprimande. Et c'est ce qu'ils ont reçu. Il avait un reproche à faire à cette église, pas un éloge. Bon, j'aimerais maintenant lire les versets 15 et 16 ici. « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. » Puisses-tu être froid ou bouillant? Autrement dit, ne sois pas tiède. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Je me disais, est-ce là un éloge? C'est une réprimande à cet âge de Laodicée impie, le pire de tous. Tous les autres, malgré les tourments et tout ce qu'ils ont dû subir, ils n'avaient rien. Ils étaient pauvres. Ils erraient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, sciés, brûlés vifs, donnés en pâture aux lions et tout. Et malgré tout, ils ont gardé la foi. Et cet âge-ci est riche. Il n'a besoin de rien. Il a tout. Mais c'est une prostituée. C'est vrai. Maintenant, nous avons une leçon très importante. J'espère que le Seigneur nous aidera. Il a dit, « Parce que tu n'es ni bouillant, ni froid, tu es tiède. » C'est comme du lait, vous voyez. Du bon lait froid, c'est bon, n'est-ce pas? Du lait chaud, c'est bon pour vous. Mais du lait tiède, vous ferez vomir. Je me souviens d'un soir où j'étais tombé malade, là-bas sur la rivière, il y a environ 25 ans. J'étais dans une petite cabane flottante. Je vivais là-bas. J'étais tombé malade. Et ils sont venus. Mon beau-frère m'avait emmené chez le docteur Isler. Il m'avait demandé, « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'avais répondu, « J'ai vraiment mal au ventre. » Il a dit, « Buvez donc un verre de lait tiède. » Oh frère, du lait tiède, ça m'a rendu malade. Alors j'ai vomi tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Maintenant, Dieu a dit, « Je préférerais que tu sois chaud, brûlant ou glacé, que tu sois l'un ou l'autre. Ne sois pas tiède, parce que tu me rends malade. » C'est ce que cet âge de l'Église fait à Dieu. Ça le rend malade. Voyez, soit tu es brûlant ou ne sois pas tiède. Tiède ou bouillant parce que tu me fais vomir. La froideur de l'Église anglicane au jour de John Wesley l'a poussé à tenir des réunions ailleurs parce que c'était froid, assez froid. La froideur de l'Église méthodiste a poussé William Booth à devenir un ardent salutiste. Vous voyez, Dieu a dit, « Si tu ne viens pas te repentir, j'ôterai le chandelier. » j'ôterai cela et le donnerai à quelqu'un d'autre. Ainsi, quand l'Église méthodiste n'a pas voulu recevoir le message de sanctification de John Wesley, William Booth est venu sur la scène avec l'armée du salut et a poursuivi la marche. C'est vrai. Pourquoi? Ils l'ont organisé. Tout à fait. Ils en ont fait une organisation. Et Dieu a dit, « Je hais cela ». Alors, William Booth a repris le flambeau et a poursuivi la marche avec l'armée du salut. Et qu'a-t-il fait par la suite? La même chose. Ils ont fait volte-face et se sont de nouveau organisés. Après lui sont venus les Campbellites, qui ont subsisté pendant un moment. Puis, il y a eu les Baptistes avec John Smith. Après cela, il y a eu les Nazaréens. Et après les Nazaréens, il y a eu les Pentecôtistes. Les Nazaréens, qu'ont-ils fait? Ils ont fait la même chose avec leur groupe. Ils ont formé une dénomination. Qu'est-ce qui s'est donc passé en leur temps? Deux petites branches, l'Église de Dieu et ainsi de suite, sont sorties de là. Qu'ont-elles fait? Elles se sont organisées. Dieu les a simplement abandonnées. Puis, les Pentecôtistes sont arrivés avec la bénédiction de la pluie de l'arrière-saison. Qu'ont-ils fait? Ils se sont organisés. Alors, il les a simplement abandonnés. C'est vrai. Maintenant, nous allons arriver ici à la fin. Vous allez voir quelque chose de très fort dans quelques instants. Très bien. Très bien. Il veut que vous soyez brûlant ou glacé. C'est l'un ou l'autre. Ne soyez pas tiède. Ne prétendez pas avoir quelque chose que vous n'avez pas. Soit vous brûlez d'ardeur pour Dieu, soit vous retournez dans l'organisation. Ne soyez pas tiède. C'est la même chose maintenant. C'est la même chose qui s'est passée dans ces églises-ci. Il veut que vous soyez bouillant ou froid. Il ne veut pas de tiédeur. C'est à ça qu'en est arrivé le pentecôtisme, un état de tiédeur. De temps en temps, ils se mettent au piano et accompagnés de quelques tambours. Ils font un peu de bruit. Quand ils ont fait assez de musique, quelqu'un se lève et, vous savez, dit quelque chose comme « Gloire au Seigneur !» Alléluia. Et quand la musique diminue, c'est tout. Oh là là, ça donne des hauts le cœur à Dieu. Voyez, oui. Très bien. Il ne se passait donc pas grand-chose en eux, dans le sens d'un réveil brûlant. Mais ils avaient tout plein d'équipements mécaniques dans cette église, voyez-vous? Parce qu'ils étaient riches et, oh là là, ils se réunissaient et avaient de grandes réunions et tout. Ils passaient du bon temps dans cette église, c'est bien vrai. Mais tout ça était dû aux équipements mécaniques. Mais il n'y a pas la chaleur du Saint-Esprit, voyez? Regardez bien ce qu'il dit ici, voyez? Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Et parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voyez? Bon, il a dit, puisses-tu être froid ou bouillant? Et parce que tu ne l'es pas, je dois simplement me débarrasser de toi. C'est tout. Simplement t'évacuer de ma bouche. Maintenant, ils avaient beaucoup d'argent, ils avaient de grands bâtiments, ils avaient de grandes choses en cours, mais ils n'avaient pas la chaleur du Saint-Esprit. Oh, ils avaient une machine, un système. Oh là là, ils s'étaient rassemblés et avaient formé une église unie. Oh, ils avaient les plus grands bâtiments qu'ils aient jamais eus et des choses qui avaient cours, mais pas de Saint-Esprit. Voyez, c'est ce que Dieu a envoyé à l'église, le Saint-Esprit. Continuons donc avec ce verset 16. Ils ont toutes sortes de comités. Oh, nous avons un grand système pour cela. L'association de bienfaisance des vieilles dames et le jeu de belote pour les jeunes hommes et le jeu de loto le vendredi soir et le match de basketball le dimanche après-midi et oh, le match de baseball tel jour. Et oh, nous venons de créer l'association de causerie masculine. Et oh, nous avons toutes sortes de choses. Je vous le dis, elle est bien chargée. Des associations, des clubs, des beatniks et quoi encore. Mais pas de chaleur du Saint-Esprit. Voyez, vous avez un grand système, mais vous n'avez rien là-dedans pour vous réchauffer. C'est pour le monde que vous vous réchauffez et non pour Dieu. C'est pour cela que vous êtes tiède. Oh, vous avez plus de membres que jamais. Certainement, mon gars. Eh bien, nous en avons eu 1 million de plus en 1944, ont dit les baptistes. Mais qu'est-ce que vous avez? Une grande machine. C'est dans cette même église où j'ai entendu faire cette remarque qu'on a dû faire une pause de 15 minutes pour donner aux pasteurs, à tous les diacres et à tous les autres la possibilité d'aller fumer dehors et revenir à l'intérieur. Voyez, voilà, la Bible condamne clairement cela. Si vous souillez ce corps, les médecins condamnent cela et disent « c'est rempli de cancer ». Et on passe à la radio pour dire « le filtre d'un homme qui réfléchit ». Comme l'a dit Billy Graham, cet homme doit être fou au départ s'il réfléchit de cette manière. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Un homme qui réfléchit n'en fumerait pas du tout, c'est vrai. Il prendrait le temps d'y réfléchir. Mais il dit aux femmes que ça les rendra très minces, vous savez, pour qu'elles puissent porter ce nouveau genre de robe qu'on fabrique. Oh là là, ça fait vendre. Il y a maintenant plus de femmes qui fument la cigarette que d'hommes. Une femme fume 3 fois plus de cigarettes qu'un homme. C'est tout à fait vrai, parce qu'elle veut maigrir. Elle ne se rend pas compte que c'est la tuberculose, le cancer et tout qui la rendent comme ça. C'est juste que c'est sous une forme embryonnaire. Ça s'installe en elle et ça la dévore lentement. Ça la tue. Il ne peut en résulter que du mal. C'est vrai, voyez. Mais voilà, c'est le filtre d'un homme qui réfléchit. Oh là là. Non, non, oh, disent-ils. Mais nous avons, frère Branham, je conteste cela. Nous avons de grandes réunions. Regardez ce que Billy Graham a eu partout dans le pays. Oh, certainement. C'est un grand système. On engage des évangélistes, on paye des conducteurs de chants. Oui, ils engagent leurs évangélistes. Eh bien, combien me donnerez-vous si je viens animer ce réveil? Eh bien, si vous ne pouvez pas me donner tant de milliers de dollars, je ne viendrai pas du tout. C'est vrai. Et qui allez-vous choisir pour conduire les cantiques? Eh bien, engagez un tel. C'est un grand soliste. Engagez-le pour, à lui tout seul, il attirera la moitié de l'auditoire. Des solistes rémunérés. Des évangélistes rémunérés. Eh bien, on arrive au point où le salut des âmes est une affaire d'argent. Le salut des âmes n'est pas censé être une affaire d'argent dans l'Église. C'est censé être la puissance du Saint-Esprit agissant dans l'Église. Le salut des âmes n'est pas... Ça ne s'achète pas avec de l'argent. Non, monsieur, non. Tout ça, ce sont des œuvres, des œuvres, des œuvres. Des évangélistes rémunérés, des conducteurs de chants rémunérés, des chorales rémunérées et tout. Dieu ne veut pas de cela. Tout ça, ce sont des œuvres. Dieu ne veut pas des œuvres. Il veut que le Saint-Esprit œuvre en vous. C'est vrai. Le verset 17 dit, « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. » Oh, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Misérable, pauvre, aveugle et nu. Il se croyait riche. Ces pentecôtistes, dans ce dernier âge des églises, ils se croyaient, et ils l'étaient en apparence. Oui, monsieur, ils sont riches. Pensez un peu à l'église. Il y a quelques années, ils se tenaient au coin de la rue. Ils erraient de lieu en lieu. Ils avaient des moments difficiles. Mais maintenant, ils ont des bâtiments qui sont parmi les plus grands qui soient. Vous voyez où les assemblées de Dieu en sont? Eux qui autrefois se réunissaient dans un bâtiment ordinaire en bois, quelque chose de semblable à celui-ci, et maintenant, ils sont en train de construire un bâtiment de 6 millions de dollars. Et ils disent, « Jésus revient très bientôt. » Vos œuvres prouvent que vous n'y croyez pas. C'est de l'hypocrisie. Construire des bâtiments à coût de millions de dollars et des choses de ce genre, et dire « Jésus revient très bientôt » et de pauvres missionnaires sont sur le champ de mission sans chaussures aux pieds. De vrais missionnaires qui ont la crainte de Dieu. Ils n'ont pas de chaussures aux pieds. Ils vivent de 2 rations de riz par semaine. Ils mangent 2 fois par semaine pour porter l'évangile dans les jungles et des choses de ce genre, pour la porter à leurs frères. Et nous construisons des bâtiments de 6 millions de dollars, des églises dotées de larges vitraux et tout le reste. Nous investissons là-dedans. Oh, ils ont même tant d'argent que parfois ils ont des associations de crédit sur place dans leurs églises. C'est vrai. Ils ont en leur sein un médecin qui examine leurs évangélistes ou leurs missionnaires. Si quelqu'un veut aller sur le champ de mission, on lui fait passer un examen médical pour voir s'il... ou psychiatrique, pour voir s'il est... oh, s'il a un bon quotient intellectuel du point de vue mental. Vous voyez, c'est au Saint-Esprit d'examiner cela. Vous n'avez pas besoin d'un psychiatre. Mais ils sont riches et n'ont besoin de rien. Oh, certainement. Vous avez beaucoup d'argent. Vu de l'extérieur, ils sont très riches. Ils ont de grands bâtiments, des vitraux et des prédicateurs éloquents. Oh là là, vraiment, je vous le dis, ils sont très éloquents. Ils peuvent rester là à parler toute la nuit pour ne rien dire. Voyez, quand ils arrivent, je veux dire, pour les choses qu'ils ne devraient pas dire, vous voyez, ils se lèvent et racontent de petites histoires au sujet de ceci et de cela. Vous savez comment ça se passe. Des chanteurs rémunérés, c'est vrai, très bien. Mais à la chair, on a des prédicateurs éloquents. S'ils ne sont pas vêtus d'un smoking dont le col est tourné vers l'arrière et une sorte de redingote, eh bien, leur assemblée est vraiment inconfortable. Et ces chanteurs se présentent là, ces femmes, avec des cheveux coupés courts, comme Jézabel, et suffisamment de peinture sur le visage pour peindre une grange. Dès qu'elles enlèvent ces robes, elles portent des shorts et des vêtements d'homme. Et la Bible dit, si une femme met un vêtement d'homme, c'est une abomination à ses yeux. Elle marche dans la rue, le nez en l'air. S'il pleuvait, elle se noierait. Des Jézabel, ces espèces de chipies, arrogantes et colériques. C'est pour ça que nous n'avons pas de réveil. C'est un grand mécanisme qui produit les œuvres. Oh, vous pourriez avoir une voix d'archange. Dieu vous demandera des comptes pour cela. C'est Elvis Presley et tout. C'est Ernie Ford, ou peu importe comment on les appelle. Ces gens qui ont ces belles voix et qui les utilisent pour le diable. Dieu a dit, je les en rendrai responsables. C'est la raison pour laquelle je respecte l'aveugle Fanny Crosby. Elle n'a jamais vendu son don au monde. Elle l'a gardé pour Dieu. Beaucoup de ces gens sont des chanteurs éloquents, des hommes éloquents, de grands hommes et tout. Au lieu d'utiliser leur talent pour Dieu, le diable les a pervertis. Elles sont là à travailler pour lui. Des personnalités de la radio et de la télévision. Ils se vendent au monde au lieu de l'utiliser pour Dieu. Certains d'entre eux viennent à l'église, vont à l'église, mettent une belle robe longue, s'avancent là et chantent ainsi, et repartent ensuite pour chanter du rock'n'roll le lendemain soir. Comme des chanteurs que nous connaissons, qui font partie de certaines églises, qui tournent des films, jouent dans des films, et vont là-bas chanter du rock'n'roll. Les rois du rock'n'roll, elles prétendent être religieux. C'est une ruse du diable. Un homme quelque part ici a eu assez de bon sens. Il disait qu'il deviendrait prédicateur. Le dimanche matin, il allait prêcher. Et ensuite, il allait là-bas. Il passa à la radio et chantait des chansons de rock'n'roll. Et ce genre de choses. Et pour finir, il a pris un pistolet et s'est fait sauter la cervelle. Je respecte cet homme pour avoir fait cela. C'est vrai, c'est vrai. Il avait autant de bon sens que ces cochons, de toute façon. Quand le diable est entré en eux, ils se sont précipités dans l'eau et se sont noyés. Certaines personnes n'en ont même pas autant. Je sais que vous, je déteste être si dur, mais mon frère, ma sœur, il faut enfoncer le clou pour qu'il tienne. C'est le jour dans lequel nous vivons. Je pense que si Jésus a traité Hérode de vieux renard et que Jean les a traités de race de vipères, très bien. Ils ont de grands bâtiments, des vitraux, des prédicateurs éloquents, des chanteurs rémunérés. Oui, monsieur. Qu'est-ce qu'ils ont là-dedans? Qu'y a-t-il là-dedans? Rien qui soit du Saint-Esprit. Ils se tiennent là. Ils sont dehors, ils portent des shorts, puis ils viennent et chantent dans la chorale. Espèce de misérable hypocrite. Oui, monsieur, c'est vrai. Et vous, les prédicateurs, qui allez à une réunion parce qu'on vous y donnera plus d'argent qu'ailleurs. Espèce de scélérat. Vous n'êtes pas digne d'être derrière la chair. C'est vrai. L'argent. Si vous ne pouvez pas donner tant de milliers de dollars, eh bien, nous ne viendrons pas. Nos organisateurs et tout viendront. Si vous disposez de cet argent, nous viendrons. Si je n'ai pas la pleine collaboration de tout le monde, je ne viendrai pas. Si tout le monde, toutes les églises, ne collaborent pas pleinement pour que j'ai suffisamment d'argent pour payer mes dettes, je ne viendrai pas. Frère, un véritable homme de Dieu irait si le Saint-Esprit le conduit à le faire. Peu importe le montant de l'offrande, même s'il devait manger des crackers et boire de l'eau plate. C'est vrai, c'est un véritable serviteur de Dieu. Mais les gens se lient par des engagements envers des émissions, la radio, la télévision et toutes sortes de choses du monde, au point qu'il leur faut avoir tout cet argent. C'est tout à fait vrai, voyez. Ce n'est pas de Dieu. Il a dit, oh, tu es riche, tu n'as besoin de rien, certainement. Mais ce dont tu avais besoin, tu ne l'avais pas. C'est vrai, mais tu ne le savais pas. Voyez, tu es riche, tu n'as besoin de rien. Ils sont rémunérés pour faire ce qu'ils font. Ils jouent aux cartes. Oh, dites-vous, nous avons de grandes assemblées. Oh, certainement. Oui, monsieur. La plus grande assemblée. Eh bien, vous savez, le maire de la ville fréquente notre église. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, vous savez, les un tel, quand ils viennent en ville, ils fréquentent notre église. Ah oui. Nous avons toutes les célébrités dans notre église. Oui, et si les pauvres saints qui sont dans le besoin viennent dans l'église, ils sont pour vous une réprimande. Vous ne voulez même pas d'eux dans l'église. Vous avez peur que quelqu'un dise « Amen » pendant que vous prêchez. Comme cette petite dame dont j'ai lu l'histoire une fois dans un petit livre. Elle était allée à une église. Ses enfants, elle les avait élevés dans une église à l'ancienne mode, quelque part là-bas dans les bois, où les gens étaient vraiment des saints. Alors, un jeune homme est venu un jour et épousé sa fille. Il lui a dit qu'il appartenait à l'église de l'extérieur. Vous savez, à l'une des grandes églises de la même dénomination établie en ville. Donc, il a dit à la mère qu'il était chrétien. Il a alors épousé sa fille et l'a emmenée avec lui. Eh bien, il l'a finalement fait quitter la bonne vieille église de campagne qu'elle fréquentait dans les montagnes pour celle ici, la grande et belle église du même nom. Mais là-bas, ils avaient le Saint-Esprit. Et ici, ils n'avaient rien. Ils se sont donc mis à fréquenter cette grande et belle église. Et un jour, la maman a dit qu'elle allait visiter sa fille. Eh bien, ils se demandaient ce qu'ils allaient bien faire d'elle. Alors, quand elle est arrivée, elle ressemblait à un personnage des livres antiques, vêtue d'une de ses robes au col montant. Vous savez, avec de longues manches, les cheveux ramenés vers l'arrière, son visage lisse comme un oignon pelé, comme ça, ramené vers l'arrière, vous savez. Elle est arrivée là et a dit, « Eh bien, alléluia, ma chérie. Et vous deux, comment ça va ?» Bon, elle a dit, « Eh bien, demain matin, c'est dimanche. » Elle a dit, « Vous irez tous à la réunion, n'est-ce pas ?» Le mari a dit, « Qu'allons-nous faire d'elle ?» Il a dit, « On ne peut pas l'emmener là-bas comme ça. » Et il a ajouté, « Eh bien, je ne sais pas quoi faire. » Eh bien, il a dit, « Maman, je vais te dire, nous... » Oh, a-t-elle dit, « Mais chérie, je ne peux pas manquer d'aller à l'église. Il y a sûrement telle ou telle église dans les environs. » Oh, elle a dit, « Je n'ai vu une là, au coin de la rue. Je vais simplement aller là-bas. » Et il a dit, « Oh, eh bien, nous n'aurons pas d'autre choix que d'y aller. » Au moment d'entrer, ils l'ont laissé entrer en premier. Voyez, elle leur faisait honte. La voici qui traverse la rue, vêtue de cette petite jupe, vous savez, sa Bible sous le bras. Eh bien, frère, son nom n'était peut-être pas dans le bottin mondain, mais j'imagine que son nom était dans le livre de vie de l'agneau. C'était ça, l'essentiel. Lorsqu'elle est entrée dans l'église, elle s'est assise à l'arrière, elle s'est installée, vous savez, a ouvert la Bible et s'est mise à lire. Et tout le monde s'est mis à regarder autour de soi, en se disant qu'une sorte d'antiquité était arrivée de quelque part. Ils regardaient tout autour d'eux comme ça, oh là là, vêtus de leurs plus beaux vêtements, vous savez, les Laodicéens typiques, et de leurs plus belles robes et tout. En regardant derrière, ils voyaient cette petite mère assise là, affichant un large sourire, vous savez, en train de lire la Bible. Oui, et le pasteur, au bout d'un moment, après qu'ils ont terminé toutes les autres choses, il a finalement eu une quinzaine de minutes pour parler. Alors, il s'est levé et a dit, « Le Seigneur est bon !» Elle a dit, « Gloire à Dieu! C'est vrai! Alléluia !» Et tout le monde a tendu le cou comme un jar. Ils ont regardé autour d'eux. Qui était-ce? Et au bout d'un moment, il a fait, il a dit, « Les chrétiens de chaque âge devraient être des gens vaillants, grand et brave, ou quelque chose comme ça. » Elle a dit, « Gloire à Dieu, c'est vrai !» Et ils ont tous regardé autour d'eux. Et lui, il a regardé son conseil de diacre. Et le conseil des diacres a compris. Ils sont allés à l'arrière et ont pris la petite femme par le bras et l'ont amenée à l'extérieur. Ils lui ont dit, « Vous interrompez le pasteur. Vous êtes mort et vous ne le savez pas. » Oui. Oh, que vaudront vos vitraux? Que valent vos beaux bancs rembourrés? Et toutes vos grandes assemblées? Vous allez tout droit en enfer, comme une hirondelle vers son nid. En fait, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous êtes perdu. À moins d'être né de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. C'est amer. C'est comme à l'époque où je prenais de l'huile de ricin. Je disais, « Maman, je ne peux vraiment pas supporter ça. » Elle disait, « Si ça ne te rend pas malade, ça ne te fera aucun bien. » Donc, je suppose que c'est aussi la même chose pour ceci. Oh, essayez donc de leur parler. Oh, ils ont de grands et beaux bâtiments et tout. Oh, ils... Si vous allez à leur église et que vous dites, allez à leur église et dites, « Eh bien, dites donc, êtes-vous pentecôtiste? Oh oui, ah oui, certainement, nous sommes pentecôtistes. Vous croyez à la nouvelle naissance? Oui. Eh bien, j'aimerais vous montrer quelque chose. Oh, regardez ce bâtiment. Vous savez combien construire, combien ce bâtiment a coûté? Il a fallu 750 000 $ pour le construire. Vous savez, autrefois, nous n'avions pas cela. Nous avions l'habitude de nous réunir là-bas, dans les ruelles. Ah oui. Et quand vous regardez tout autour, vous voyez toutes ces grandes choses qu'ils ont. Oui, monsieur. Et puis ils disent, oh, nous avons toutes ces grandes choses. Mais ils n'ont pas de fardeau pour les âmes perdues. Ils sont toujours prêts à vous montrer combien ils ont de bâtiments. Regardez notre registre de l'école du dimanche, comme il est volumineux. À quoi cela sert-il s'ils n'ont pas le Saint-Esprit? Tu es riche, tu t'es enrichi et tu n'as besoin de rien. C'est ce qu'il a dit, c'est ce que tu penses. Mais tu ne sais pas que tu es pauvre, malheureux, misérable, aveugle, nu et tu ne le sais pas. Voyez, c'est ça. Oh, bien sûr, ils disent, vous savez quoi? Autrefois, nous étions, la petite église où nous nous réunissions avant se trouve à l'arrière. Celle-ci est la grande maintenant. Et je vous le dis, pas de fardeau pour les âmes, mais il doit veiller à ce que l'on prenne soin de toutes ces choses. Il faut s'occuper de la société de bienfaisance des dames et de toutes les autres choses, mais pas de fardeau pour les âmes perdues. Oh, mon vieux, dans quel état cette église s'est-elle retrouvée? Ils n'avaient pas de fardeau pour les âmes, mais ils avaient un fardeau pour les richesses. C'est vrai, ils avaient le mauvais fardeau. Ils avaient un fardeau pour leurs richesses, mais pas de fardeau pour les âmes perdues. L'Écriture dit, ils ne savaient pas qu'ils étaient malheureux, oh, misérables, aveugles. Ils pensent qu'ils pourraient convertir le monde à coups d'argent. Oh, si nous pouvions simplement mettre en place un programme qui nous permettrait d'amasser beaucoup d'argent ici, je crois que nous pourrions convertir le monde. Frère Branham, si nous pouvions simplement amener certains riches de notre Église à contribuer, je crois que nous pourrions créer une association qui irait partout pour convertir le monde. Nous pourrions survoler l'Afrique tout entière en avion et larguer des livres partout ou autre chose de ce genre. Si seulement nous avions de l'argent. Frère, l'argent ne convertira pas le monde. C'est le Saint-Esprit qui convertira le monde. La seule chose qui convertira le monde, c'est la prédication du Saint-Esprit et de la croix avec puissance. Le programme de Dieu, ce n'est pas l'argent, c'est le Saint-Esprit. C'est ce qu'est le programme de Dieu pour l'âge de l'Église de Laodicée ou pour tout autre âge de l'Église. Oui, monsieur, ils veulent le Saint-Esprit. Oh, ils disent, nous sommes, avons de l'or. C'était de l'or, d'accord, mais pas la bonne sorte. Ils avaient beaucoup d'or, mais pas la bonne sorte. Ainsi donc, Jésus leur a donné cet ordre. Je sais que tu es riche, que tu as de l'or et que tu n'as besoin de rien, mais je te conseille de venir acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Une autre sorte d'or, oui, un or qui a été éprouvé de la fournaise ardente, qui est passé par le feu de la mort, qui est passé par le calvaire, qui en est ressorti. Beaucoup de cet or que vous avez maintenant est terni. Il sera rongé, il va rouiller. Si vous pouvez noter ceci, Jacques, l'épître de Jacques, 5, 1 à 4, vous comprendrez ce qu'il en est. Il y est dit, « À vous maintenant, riches, maintenant à la venue du Seigneur, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui sont sur vous. Votre or est rouillé en vous. » Voyez, c'est ce genre d'or qui rouille. Mais l'or que Jésus donne, c'est le Saint-Esprit, l'huile dorée de l'Esprit, qui se déverse dans votre cœur. Oh là là, je te conseille de venir acheter de moi de l'or, si tu veux devenir riche. Oh, oui. Aussi, ils étaient aveugles. Là, c'est un piètre état dans lequel se trouvaient. Je ne pense pas que ces chrétiens étaient aussi aveugles qu'ils étaient myopes. Je crois qu'ils étaient myopes. La seule chose qu'ils pouvaient voir, c'était leur grand bâtiment. La seule chose qu'ils pouvaient voir, c'était leur grande assemblée. La seule chose qu'ils voyaient, c'était une chorale d'apparat, affublée de ses longues robes et tout. Je crois qu'ils étaient simplement myopes. Ils pouvaient à peine voir plus loin que leur nez. Je ne pense pas qu'ils étaient aveugles. Ils étaient simplement myopes. Tout ce qu'ils pouvaient voir, c'était leur. Eh bien, vous savez quoi? Nous faisons partie de tel et tel. Leur grande dénomination, leur grande foule, leurs nombreux membres, leur école du dimanche, leur beau bâtiment. Mais ils avaient besoin du Saint-Esprit, a dit Jésus. Ils avaient besoin du Saint-Esprit. Alors le Seigneur leur a dit, « Vos yeux, si vous êtes, votre vision est si mauvaise, et vous êtes si myope que vous ne pouvez rien voir d'autre que votre grand bâtiment ici, et votre grande et belle assemblée, et votre, le maire de la ville, et tous les autres viennent à votre église. Vous avez les célébrités, et vous m'avez oublié. Mais si vous êtes aveugle à ce point, et que vos yeux sont si endoloris, je vais vous vendre un collier. » Oui, voyez, c'est étrange que ces docteurs en théologie n'avaient rien de tout ça, n'est-ce pas? Ils avaient beaucoup de parfums, ils avaient beaucoup de théologie, mais il leur fallait un collier, le Saint-Esprit de Dieu, pour masser leurs yeux, afin qu'ils soient dans l'attente de la venue du Seigneur. Qu'ils regardent la Bible, qu'ils regardent la parole. Ils savent parfaitement comment dire « Amen ». Ils avaient le parfum, ils avaient toutes les huiles, mais il leur fallait le collier, a dit le Seigneur. Il a dit, il vous faut un peu de collier pour moindre vos yeux. Ça leur permettra de s'ouvrir. Autrefois, quand j'étais petit garçon, je crois que j'ai déjà raconté cela. Il se peut que je l'ai raconté à l'église. Cela me vient à l'esprit maintenant. J'ai passé une partie de mon enfance dans les montagnes du Kentucky et nous vivions dans une vieille maison en bardeau. Maman, ici, nous avions une vieille petite pièce à l'étage, dans laquelle nous avions un matelas de paille. Et par-dessus ce matelas de paille, il y avait une couette. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est une couette ou pas, ou un lit de paille. Un vieux lit. Nous étions trop pauvres. Papa et maman avaient leur lit en bas. Alors nous grimpions une petite échelle pour aller en haut. Et maman mettait parfois un morceau de toile par-dessus les couvertures et tout, pour empêcher le... Vous savez, vous vous tenez... Couchez là et vous comptez les étoiles entre les vieux bardeaux avec en plus la lumière de la lune, vous savez, puisqu'il y avait de gros trous dans le toit et tout. Et quand il neigeait ou quelque chose, ou que la pluie tombait, nous, les jeunes, nous nous blottissions sous ce morceau de toile, vous savez, pour ne pas être mouillés. Et parfois, à cause des courants d'air qui passaient par ces trous, nous attrapions un rhume et nos paupières se collaient. Vous savez, elles restaient collées à cause du froid dans les yeux. Donc, maman nous appelait le matin. « Descendez !» Je disais, « Je ne peux pas venir, maman, parce que j'ai les paupières collées. » Il y avait des sécrétions à l'intérieur. Vous savez, le froid dans les yeux, je n'arrivais pas à les ouvrir. Vous savez, un des jeunes allongé là, moi, Humpy et les autres, nous essayions d'ouvrir les yeux et nous n'y arrivions pas. Nous étions aveuglés. Mon grand-père était trappeur. Il trappait des ratons laveurs. Et chez nous, la graisse de raton laveur, c'était le remède à tous les maux. Nous graissions les chaussures avec de la graisse de raton laveur. Et si vous aviez le croup, on mettait un peu de térébenthine là-dessus. Et oui, il fallait avaler cela ainsi, pour le croup. Et puis, quand nos paupières étaient collées, maman prenait ce truc. Très bien, un instant mon chéri. Elle se précipitait dans la cuisine pour prendre une bonne vieille tasse de graisse de raton laveur. La plaçait là jusqu'à ce qu'elle soit très chaude. Puis, elle montait et nous massait les yeux, voyez, jusqu'à ce que cela fasse son effet. Au bout d'un moment, j'étais en mesure de voir, d'ouvrir les yeux. Prendre la graisse de raton laveur les avait ouverts. Et je vous le dis, nous avons eu de terribles courants d'air. Voyez, le pays a été balayé par une terrible froideur. Les baptistes ont dit, les jours des miracles sont passés. Le Saint-Esprit n'existe pas. Le parler en langue, non plus. Il n'y a pas de baptême au nom du Seigneur Jésus. Et oh, toutes sortes de courants d'air. Et cela a fermé beaucoup d'yeux avec une sorte de froid spirituel. Il faudra plus que de la graisse de raton laveur pour leur ouvrir les yeux, frère. Il faudra un nouveau baptême du Saint-Esprit pour masser vos yeux, afin que vous puissiez voir, et que votre myopie soit ôtée, afin que vous puissiez voir que la parole de Dieu est la vérité. C'est vrai. Oh, je te conseille de venir prendre mon collier, celui qui oint vos yeux. Alors, les docteurs en théologie ont toute la théologie, leur parfum et tout. Mais il faut plus que cela. Il faut le Saint-Esprit. C'est lui qui donne la vision spirituelle, qui permet de voir les puissances célestes à l'œuvre. Le Saint-Esprit, le collier du Saint-Esprit. Le collyre est une huile chaude, nous savons cela. Et le Saint-Esprit, c'est l'huile de Dieu. Et toutes ces théologies et ces parfums, oh, mon cher frère, tu n'as pas à t'en faire. Il n'y a rien de mal, hein. Tout va bien. Eh bien, nous avons la plus grande église de la ville. Ce parfum ne marchera pas. Non, monsieur, ça vous fera voir seulement juste ici, myope, et dire, oui, nous avons la plus grande église. Mais qu'en est-il du jugement à venir, où Dieu vous demandera des comptes à vous, membres de l'église de Laodicée? Je ne parle pas tellement à vous ici, mais on m'enregistre, et ça va partout dans le monde, voyez-vous? Donc, je parle à plusieurs millions de personnes en ce moment, vous voyez? Alors, voilà, Laodicéen, tiède, rétrograde, myope, et que sais-je encore, des mulets. Un mulet est un hybride, il n'a pas de jugeote pour commencer. Vous lui parlez, il dresse ses grandes oreilles et fait « i-an, 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 i-an ». Il n'y a aucune gentillesse en lui. C'est un hybride. Il est entre un cheval et un âne. Voilà ce qu'il y a maintenant. Vous avez croisé les Nicolaïtes et les Laodicéens et vous avez de nouveau des ânes. Ce dont nous avons besoin, c'est vrai, ils ne le savent pas. Parlez-leur de la guérison divine, du baptême au nom de Jésus. Ils diront « i-an, i-an ». Mon pasteur ne, i-an, i-an. Nous, les presbytériens, nous ne croyons pas ça. Des ignorants, c'est à peu près comme ça qu'on les appellerait. Je déteste le mulet, mais je vous le dis, j'aime un bon et doux cheval pur sang. Eh bien, on peut lui apprendre quelque chose. Vous pouvez lui apprendre à s'incliner, à jouer dans un cirque et à faire presque les mêmes choses qu'un humain, puisqu'il est, il sait quelque chose. Il a un pédigré. Un mulet ne sait pas qui était son papa ou qui était sa maman, et il ne peut pas se reproduire. C'est la même chose pour certaines de ces vieilles dénominations froides et formalistes. Elles ne pourront plus jamais se relever. Dès que l'Église devient une dénomination, elle est morte. Elle ne se relève plus jamais. Qu'est-ce qu'elle est? Elle est hybride. Martin Luther était très bien, mais quand il s'est organisé, qu'a-t-il fait? Le méthodisme était très bien. Quand il s'est organisé, qu'a-t-il fait? Le pentecôtisme était très bien. Mais quand vous l'avez organisé, qu'avez-vous fait? Vous l'avez hybridé, vous l'avez croisé pour obtenir une église catholique nicolaïte. C'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez adopté sa façon de baptiser. Vous avez adopté ses manières et ses actions. Et la Bible dit que la fille d'une impudique, d'une prostituée, une fille de prostituée. C'est tout à fait vrai. Un bon cheval pur sang. Oui, il est doux. Oh, il est bon. Je l'aime bien. Il met la tête sur votre épaule. Il est aimable, doux. Pourquoi? Il sait qui est son papa. Il sait qui est son grand-papa. Il sait qui était le papa de son grand-papa. Il peut remonter dans son passé. Il est pur sang. Et j'aime bien voir un véritable chrétien pur sang. Il ne trimballe pas de lettres. Il était méthodiste la semaine dernière, puis baptiste cette semaine, puis pentecôtiste cette semaine, et pèlerin de la sainteté la semaine prochaine. Il ne sait pas qui est son papa ou qui est sa maman. Mais laissez-moi vous dire qu'un homme né de l'Esprit de Dieu peut vous ramener au jour de la Pentecôte. Il peut vous dire qu'il est un pur sang, un pentecôtiste. Amen. Je veux être enveloppé de la Pentecôte, du sommet de ma tête à la plante de mes pieds. Je ne parle pas des pentecôtistes dénominationnels. Je parle de la vraie puissance de Christ ressuscité, la vraie bénédiction de Pentecôte, un collyre qui ouvre les yeux afin que nous puissions regarder loin en arrière et voir d'où cela vient. Vous vous contentez de regarder ce qu'est l'Église aujourd'hui. Regardez en arrière et voyez d'où elle vient, puis continuez de vous rapprocher de Dieu. Vous vous éloignerez de cela. Oui, monsieur. Très bien. J'ai remarqué une autre chose. Il est dit, ils sont nus. Nus et ne le savent pas. Certainement. Oh, ils sont nus et ne le savent pas. Eh bien, cette personne est dans une situation misérable. Si un homme est malheureux, aveugle, misérable, nu. Eh bien, s'il le sait, il fera quelque chose pour s'en sortir. Mais s'il ne le sait pas, le pauvre homme a perdu la raison. Pas vrai? C'est un peu fort. Il a perdu la raison. Il n'est plus assez lucide pour s'en sortir. Si vous voyez dans la rue quelqu'un qui est pauvre, malheureux, aveugle, misérable et nu, et que vous dites, « Frère, vous êtes nu. » Oh, vraiment? Oh, oh, frère, trouvez un moyen de m'aider. Aidez-moi à trouver des vêtements. Mais si vous allez vers eux et que vous dites, dites-moi, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Qui êtes-vous? Un exalté? Eh bien, dites donc, que voulez-vous dire? Ne me parlez pas comme ça. Je suis presbytérien. Je suis baptiste. Je fais partie de tel et tel et tel et tel. Nu, et tu ne le sais pas. Eh bien, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit au sujet de cet âge. Nu, et tu ne le sais pas. Viens acheter de moi des vêtements, a-t-il dit. Des vêtements blancs. Le vêtement blanc, c'est pour les saints. C'est la justice des saints. Voyez? Nu? Oh, certainement. Oui, monsieur. Oh, vous dites, frère Branham, pas notre église. C'est l'église où l'on s'habille le mieux dans la ville. Je n'en doute pas. Certaines des dernières tendances de la mode, les tissus les mieux taillés, les plus récentes tenues des vedettes de Hollywood. Si sexy que vous faites tourner la tête de tous les hommes dans la rue. Oui, certainement. Une dame m'a abordé et a dit, « Frère Branham, que voulez-vous dire par là ?» Eh bien, nous achetons ces robes dans les magasins. C'est tout ce qu'on peut trouver. J'ai dit, « On vend encore du tissu et on fabrique encore des machines à coudre. Votre raison n'est pas valable. » La Bible dit, « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. » Pas vrai? Eh bien, si donc une femme s'habille sexy et se présente devant un homme, à qui revient la faute? À la femme. Elle en est la cause. C'est tout à fait vrai. Eh bien, vous pourriez être aussi pur qu'un lys face à votre mari. Vous êtes peut-être une jeune fille qui n'a jamais rien fait de mal de votre vie. Vous étiez vierge quand votre mari vous a épousée. Mais si vous vous habillez comme ça et faites en sorte qu'un homme vous regarde de cette manière, il a déjà commis un adultère avec vous dans son cœur. Ce pécheur vous a regardé. En tant que chrétienne, vous avez peut-être les vêtements les mieux taillés de la ville, les meilleurs lainages, mais ce n'est pas convenable pour une sainte de Dieu de s'habiller comme ça. Oh oui, ça ne convient pas à une enfant de Dieu. Oh non, disent-elles. Eh bien, elles disent, notre église, êtes-vous bien habillée? Elles disaient qu'elles l'étaient. Ils étaient riches et n'avaient besoin de rien. Certainement. Eh bien, ils disaient, même notre pasteur marche vêtu d'une grande soutane. Toute la chorale porte une longue robe. Le diable s'est faufilé en dessous. Oui, oui, c'est vrai. Oh, Eh bien, je ferais mieux de ne pas dire celle-là non plus. Je vais donc laisser tomber cela. Très bien. Oh, toutes ces grandes choses, les chorales en robes longues, les chorales rémunérées, il faut les payer pour qu'ils chantent. Il faut donner tant au pasteur. Sinon, il trouvera un autre endroit où on le paye un peu mieux. Il va réunir le conseil d'administration et dire, « Eh bien, mes frères, vous avez été très gentils avec moi ici. Vous me donnez tant de centaines par semaine, ou quelque chose de ce genre. » Mais l'autre église presbytérienne de, appelez-la pentecôtiste, ou quel que soit le nom, qui est quelque part ici, ils m'ont fait la promesse qu'ils me donneraient tant de plus. Oh là là! Alors, qu'est-ce qui reste pour un pauvre saint? Quelles chances ont-ils? Qu'est-ce qui reste pour une pauvre petite église remplie du Saint-Esprit? Quelles chances a-t-elle? Elles ne peuvent pas se permettre pareille chose. Alors, le Seigneur vous suscite simplement quelque chose. Amen! Qu'il a lui-même minutieusement choisi. Il le remplit du Saint-Esprit et le place comme surveillant général de cela. Il envoie, il a dit, « Je te conseille d'acheter de lui des vêtements blancs. » La Bible dit, « Les vêtements blancs sont la justice des saints. » Maintenant, je crois que nous passons maintenant au verset 19. Je crois que nous sommes à peu près au verset 20, à ce que je peux voir. Oui, oui, et on termine là-dessus. Bon, restez bien tranquille maintenant et écoutez pendant que nous lisons ceci. Écoutez, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi je vins et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ceci est l'une des déclarations les plus frappantes que j'ai jamais vues dans le Nouveau Testament. Je veux que vous remarquiez, je me tiens à la porte et je frappe. Ceci est généralement utilisé comme citation pour lancer l'appel aux pécheurs, n'est-ce pas? Nous disons aux pécheurs, Jésus est à la porte et il frappe. Mais ici, il frappe à la porte de l'Église, car il marchait autrefois avec eux. Mais à cause de leur organisation, leur mondanité et leur froideur, il l'avait mis dehors. Il est à l'extérieur de l'Église. Maintenant, alors que nous terminons, souvenez-vous, dans le premier des actes de l'Église, il marchait au milieu des sept chandeliers d'or. N'est-ce pas? Les sept âges de l'Église. Et ici, à la fin, on le retrouve à l'extérieur de quelle Église? Celle de Laodicée. L'Église de Laodicée, à l'extérieur. Il l'avait mis dehors. Eh bien, il se tenait à l'extérieur et cherchait à revenir à l'intérieur. Quel triste spectacle! Le Sauveur du monde qui se tient à l'extérieur de l'Église. Il s'est acquise par son propre sang. Honte à eux! Je me tiens à la porte et je frappe. Après avoir été mis dehors ou expulsé, il essaie donc de revenir à l'intérieur. Il se traîne jusqu'à la porte et frappe. C'est le passage le plus frappant du Nouveau Testament. Je pense qu'il n'y a rien de plus triste que ceci, de voir le Sauveur du monde être expulsé de sa propre Église, l'âge de Laodicée. Après qu'il leur a dit ce qu'ils avaient fait et évoqué leur richesse et tout, ainsi que l'état dans lequel ils étaient, combien ils étaient tièdes, et ainsi de suite, il n'a pas eu besoin de les vomir. Ce sont eux qui l'ont vomi. Et voici que malgré tout ça, ils continuaient de frapper à la porte et cherchaient à revenir à l'intérieur. Pour quelle raison? Pour leur donner la vie éternelle. Il essayait de sauver l'âme de ceux-là même qui l'ont tué au calvaire. C'est l'image la plus pathétique que j'ai jamais vue de ma vie, à laquelle j'ai jamais pensé. Exclu. De quoi était-il exclu? Maintenant, écoutez, mes amis, si ceci n'est pas frappant, visualisez cela, laissez cela pénétrer dans votre cœur. Notre Sauveur, quand il était sur la terre, il a été exclu de sa propre nation. Il a été rejeté. Il a été exclu. Le monde l'a exclu et l'a crucifié. Et maintenant, c'est de sa propre Église qu'il est exclu. On ne veut de lui nulle part. Ils n'ont pas besoin de lui. Ils ont une dénomination, ils n'ont pas besoin de lui. Ils ont un pape, pourquoi auraient-ils encore besoin de lui? Ils ont des archevêques, des surveillants généraux, ils n'ont plus besoin du Saint-Esprit. Ils n'en ont plus besoin. Christ, le Saint-Esprit, ils n'ont pas besoin de lui. Donc, ils sont... Je ne crois pas qu'ils ont subitement décidé de le mettre à la porte, car ils n'avaient pas constaté son absence. Ils n'avaient pas constaté son absence, puisqu'ils lui chantaient encore des cantiques. Le prédicateur parlait encore de lui. Ainsi, ils n'avaient pas constaté son absence. Mais leur propre mondanité et leur organisation, ils s'étaient organisés et ils disaient, « Les jours des miracles sont passés, et ceci et cela, ça n'existe pas. » Je vous le demande, chaque réveil qu'il y a jamais eu, à n'importe qui, les historiens, là, tout au long de ces églises, chaque réveil qu'il y a eu, cela s'est toujours produit en dehors de l'organisation. Tout homme qui a jamais commencé un réveil l'a fait en dehors des organisations. Et chaque fois qu'un réveil commençait, des signes, des miracles, le parler en langue, des guérisons, et tout le reste se produisait. Aussitôt que ce fondateur mourait, ils organisaient cela et on faisait une organisation. Cela mourait et Dieu ne perdait plus son temps avec cela. C'est tout à fait vrai. Et le voici qui se retrouve devant la porte au dernier âge de l'Église. Le Dieu Tout-Puissant. Ça me brise le cœur d'y penser. Mon Seigneur, debout devant la porte de sa propre Église, après avoir été expulsé à cause de la mondanité, la froideur, la dénomination et l'indifférence, il est là devant la porte, à frapper. à essayer de revenir à l'intérieur. Quand j'y ai pensé tout à l'heure, je me suis penché sur la table et je me suis mis à pleurer. J'ai souvent pensé à Jésus quand il était assis là, dans la maison de ce vieux pharisien, où personne ne faisait cas de lui, alors qu'il avait les pieds sales. On ne l'avait pas accueilli à la porte pour lui laver les pieds et loindre, afin de nettoyer le fumier et ces choses dans lesquelles il avait marché. Son vêtement descendait jusqu'au sol et avait ramassé la puanteur de la route où les chevaux et tout avaient voyagé. Et cette puanteur s'était attachée à lui. On lavait toujours les pieds des gens. C'était la coutume. Et un larbin préposé au lavage des pieds restait à la porte. Et quand un homme arrivait, on lui lavait les pieds et on allait lui chercher une petite paire de sandales qui lui convenaient et il les mettait. On lui oignait la tête et pour qu'il sente bon et pour les brûlures au cou causées par les rayons du soleil. Et on lui peignait les cheveux. Puis, il entrait. Et on souhaitait la bienvenue à l'invité. Alors, voici comment... Lève-toi un instant, Pat. Je veux vous montrer quelque chose. Voici comment on faisait. On souhaitait la bienvenue comme ceci. Je pense que c'est quelque chose un peu comme ceci. Pour souhaiter la bienvenue comme ceci, voyez. Et on se donnait l'accolade. Et l'invité était accueilli. Mais quand Jésus est venu à cette fête, tout comme il est venu à la fête de la Pentecôte ici, quelqu'un ne l'a pas remarqué. Ils étaient occupés par leurs affaires. Les évêques et autres étaient là. Jésus avait été invité, mais personne ne lui a lavé les pieds. Et là, il était assis dans un coin. À peine savait-on qu'il était là. Ses pieds sentaient mauvais. Il était tout couvert de saleté, de poussière. Puis, une pauvre petite prostituée qui descendait la rue et passait par là. Elle n'avait qu'un peu d'argent dans un sac. Et elle a regardé là et a vu Jésus assis, les pieds sales. Ça lui a brisé le cœur. Elle a dit, « Voilà l'homme qui a pardonné les péchés de cette autre femme. C'est celui dont j'ai entendu dire qu'il guérissait les malades. Pourquoi ne fait-on aucun cas de lui ?» En effet, il y avait là des évêques et tous les autres. Ils l'ont expulsé. Là, on l'avait invité à venir. C'est comme ça que nous faisons. Nous l'invitons à venir à nos réunions, mais quand nous arrivons, nous avons honte de lui. Oh, je ne voudrais pas me lever pour dire « Gloire au Seigneur ». Oh non, les Jones sont assis là. Ils pourraient me prendre pour un exalté. Espèce d'hypocrite. C'est vrai. J'ai peur de parler en langue et qu'on me traite de monsieur parler en langue. Vous êtes une misérable loque. Maintenant, soumettez-vous. On enfonce le clou, vous voyez. Vous êtes misérable, malheureux, pauvre, nu et aveugle. Et vous ne le savez pas. Jésus était là, les pieds non lavés. Une prostituée. Je la vois s'avancer. Parlons. Observons-la un instant. Je la vois aller à la boutique et dire, les larmes commencent à lui couler sur le visage. Et elle se dit, je ne peux pas le faire. Si j'apporte ceci là-bas, il saura comment j'ai gagné cet argent. Il sait comment je l'ai gagné. Mais c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce qu'il veut. Voyez, ça lui est égal. Venez simplement, je n'ai rien à t'apporter. Alors, elle a acheté un parfum et elle l'a apporté. Elle est arrivée là et elle s'est dit, si seulement je pouvais le voir. Alors, elle est discrètement entrée et s'est tenue quelque part près de la porte. Et non, on ne lui avait pas souhaité la bienvenue. Alors, elle a pris le vase d'albâtre, l'a brisé et on a mis sur ses pieds. Et elle a commencé à lui laver les pieds et elle s'est mise à pleurer. Oh, c'est sûrement lui. C'est au sujet de celui-là que j'ai toujours lu dans la Bible. Je sais qu'il acceptera ceci. Et soudain, quelle belle eau pour ses pieds. Des larmes de repentance qui lui tombaient sur les pieds. Elle n'avait pas de chiffon pour lui essuyer les pieds. Alors, elle a tendu la main et a pris ses cheveux. De jolies boucles toutes défaites, alors que les larmes lui coulaient sur le visage. Elle lui lavait les pieds. Et de temps en temps, elle lui baisait les pieds. Elle lui lavait les pieds ainsi. Jésus avait les pieds sales et personne n'en faisait cas. Et aujourd'hui, il traîne le vilain nom d'exalté, quelque chose comme ça. Et les hommes n'ont pas le cran de prendre position pour lui. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Je prendrai le chemin avec le petit nombre des méprisés qui appartiennent au Seigneur. J'ai commencé à marcher avec Jésus. Ô Seigneur, conduis-moi jusqu'au bout. Conduis-moi jusqu'au bout, Seigneur. Peu importe le prix, comme Jacob, j'ai pour oreiller une pierre. Qu'est-ce que ça peut bien changer? Tout ce qu'il a fait pour moi. Et cette pauvre prostituée était là à pleurer, à verser des larmes. Et soudain, voilà Simon, la grosse légume qu'il avait invitée, qui dit voici ce qui montre s'il est prophète ou pas. Il aurait dû savoir quel genre de femme elle est. Espèce d'hypocrite. Alors, après qu'elle a terminé, Jésus n'a pas du tout bougé les pieds. Il est simplement resté là à la regarder et à l'observer. Oh, j'aime cela. Il ne s'agit pas des grandes choses qu'on fait, mais des petites choses qu'on ne fait pas parfois. Assis là, il l'observait. Il ne faisait que l'observer. Personne ne faisait cas de lui. À force qu'elle pleure et lui lave les pieds, les gens finalement prêtaient attention à cela. Ces choses ont attiré l'attention des gens. Et il l'observait tout simplement, sans dire un mot. Le vieux Simon, qui se tenait là, a dit, « Vous voyez, s'il est un prophète ou pas, n'est-ce pas? Je vous l'avais dit. S'il était un prophète, il aurait su qui est cette femme. Vous voyez, c'est nous qui étions la grande église ici. Voyez-vous, nous le savons. Nous savons qu'il n'est pas un prophète, car il l'aurait su. Après qu'elle ait eu terminé, ses larmes de repentance qui lui avaient coulé sur le visage avaient lavé les pieds de Jésus. Je crois qu'il s'est senti un peu rafraîchi. Oh Dieu, j'aurais aimé être là. Je les aurais lavés de nouveau. Oui, monsieur. Dites donc, la femme d'aujourd'hui n'aurait-elle pas beaucoup de mal à essuyer les pieds avec ses cheveux? Il lui faudrait se tenir sur la tête pour le faire, pour avoir assez de cheveux pour les essuyer. Oui, monsieur, elle a tout coupé. Mais là, les pieds de Jésus, personne n'en faisait, on critiquait. Il était assis là, couvert de honte, les pieds qui sentaient mauvais. Elle l'a lavé. Après qu'il avait terminé, il l'a regardé comme pour dire, « Très bien ». Il a levé les yeux et a dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Tu m'as invité ici et tu ne m'as jamais accueilli à la porte. Tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Tu n'as pas oint ma tête quand je suis entré pour me soulager des brûlures du soleil. Tu ne m'as pas donné de baiser de bienvenue quand je suis entré. Mais cette pauvre femme, oh là là, cette laissée pour compte, cette prostituée de la rue n'avait pas d'eau pour me laver les pieds et elle les a lavés avec ses larmes. Elle n'avait rien pour les essuyer, alors elle s'est servie de ses cheveux pour les essuyer. Elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Maintenant, je veux te dire quelque chose. Ses nombreux péchés lui sont pardonnés. C'est vrai, il n'a jamais rien dit au sujet de ses péchés à lui. Tes nombreux péchés te sont pardonnés. Et aujourd'hui, voici que Jésus se tient à l'extérieur de la porte des organisations pentecôtistes, des organisations baptistes, des organisations méthodistes, et qu'il cherche à entrer de nouveau avec la Pentecôte. Et les gens l'ignorent. Après vous, votre mondanité et tout le reste qui l'ont expulsé de l'Église, il se tient là à essayer, à implorer, afin de revenir à l'intérieur. Eh, oh, c'est la chose la plus pathétique que j'ai jamais vue de ma vie. Il n'avait pas besoin de lui. Il était là, à l'extérieur, à frapper, pour essayer d'entrer. C'est la même chose qu'il essaie de faire. Pourquoi il était à l'extérieur? Ils ne l'ont jamais mis à la porte. Il continuait de chanter à son sujet, de prêcher à son sujet, mais ils n'ont jamais constaté son absence parmi eux. C'est vrai, ils continuaient de plus belle. Pourquoi? Ils étaient myopes. Ils regardaient à leur grand bâtiment. Ils étaient riches. Ils regardaient à la grande organisation dont ils faisaient partie. Ils essayaient de la bâtir, d'y faire entrer plus de membres, et ils n'ont pas constaté son absence. Non, non, ils n'ont pas constaté l'absence du parler en langue. Ils n'ont pas constaté l'absence de grands et puissants messages de Dieu qui émondent le cœur, qui circoncisent le cœur, qui retranchent les choses du monde et qui vous égrènent comme un épi de maïs. Oh, si vous prêchiez comme ça dans leur église, ils vous expulseraient. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit prêchait. Jésus a dit, race de vipère, espèce de serpent dans l'herbe. Jean l'a dit aussi, tout comme les grands hommes loin, il leur arrachait toujours la peau. C'est vrai, mais ils n'ont pas constaté son absence, parce qu'ils n'avaient pas cela. Voyez, alors, on leur prêchait de petits messages fleuris, on leur passait la main dans le dos, et on leur disait, joignez-vous tout simplement, inscrivez votre nom juste ici, et nous vous accepterons en qualité de membre. Apportez-nous la lettre de l'autre église, et nous vous recevrons, et ainsi de suite. Eh bien, combien comptez-vous donner en contribution chaque année? Vous voyez, c'est cela. Ils sont riches et n'ont besoin de rien. Oh, mais vous avez besoin de la chose la plus glorieuse, et vous ne l'avez pas. Jésus qui se tient à l'extérieur et qui essaie de revenir à l'intérieur avec la Pentecôte. Que pensez-vous qui se passerait ce soir dans l'église méthodiste si le Saint-Esprit descendait dans l'église et qu'il se mettait à crier, à sauter, à parler en langue et à agir comme des ivrognes, comme une bande de gens ivres? Eh bien, là, la conférence exclurait cette église méthodiste de leur conférence. Vous le savez, que se passerait-il dans l'église baptiste si cela arrivait? La même chose. Chez les pentecôtistes? Eh bien, chez bon nombre d'entre eux, il leur arriverait la même chose. Certainement, oui monsieur, ils ne supporteraient pas ces absurdités. Ils diraient, eh bien, ils ont même abîmé nos nouveaux tapis. Oui, bien sûr. Oh là là, quelle bande de gens misérables. C'est vrai. Eh bien, très bien, il était autrefois parmi eux. Il marchait avec eux au milieu des sept chandeliers d'or. Et voici la réponse. Les dénominations, avec leurs pratiques mondaines, leurs évêques, leurs cardinaux, et toute leur mondanité, l'avaient expulsé et ils n'avaient jamais constaté son absence. Et l'Église? Maintenant, qu'allons-nous faire pour permettre qu'il revienne à l'intérieur? S'il est à l'extérieur de l'Église pentecôtiste maintenant, qu'allons-nous faire pour permettre qu'il revienne à l'intérieur? Faudra-t-il un vote unanime des gens pour le ramener? Faudra-t-il élire un nouveau pape, un nouveau cardinal? Ou peut-être qu'il faudra mettre sur pied une nouvelle dénomination? Cela ne réglera jamais la question. Ça ne marchera jamais. Une nouvelle dénomination ne sera pas la solution. Un nouveau cardinal ne sera pas la solution. Un nouveau pasteur ne sera pas la solution. Un évangéliste bien rémunéré ne sera pas la solution. Il n'y a absolument rien d'autre que vous-même pour régler cela. Comment le faisons-nous entrer? Pas par un vote. Non, monsieur, nous ne pouvons pas faire revenir Jésus à l'intérieur par un vote, parce qu'il ne viendra pas. Voici ce qu'il y a. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, or nous savons maintenant ce qu'est la porte. Si quelqu'un ouvre la porte et entend ma voix, non pas si une église, si une organisation, non monsieur, il ne traite pas avec elles. Elles sont mortes et enterrées au départ. Il hait cela. Il a toujours haï cela. Il a dit qu'il haïssait cela. Et il hait encore cela ce soir. Mais si quelqu'un, n'importe quel méthodiste, n'importe quel baptiste, n'importe quel presbytérien, ou n'importe quel catholique, n'importe quel membre de l'Église de Dieu, n'importe quel nazaréen, n'importe quel pentecôtiste, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Voilà le message à l'Église pentecôtiste. Il ne s'agit pas d'essayer de ranimer l'organisation pentecôtiste, mais de ranimer la bénédiction de Pentecôte dans le cœur de l'individu. C'est le seul moyen. Et je souperai avec lui, et lui avec moi. Qu'est-ce que le messager de l'Église, le message adressé à l'Église nous enseigne alors? Nous enseigne? Pas une croissance dans l'esprit. Non, monsieur. C'est plutôt un déclin de l'esprit. Il y a continuellement un déclin. La méthode, les messagers de l'Église et le message adressé à chaque âge de l'Église ont toujours condamné le dénominationalisme. Tout à chaque message adressé à l'Église, l'Église déclinait continuellement et refusait de l'écouter. Le message à l'Église ne tenait aucun compte des dénominations, et cela produit des chrétiens hybrides, des soi-disant, c'est vrai, qui ne connaissent rien de Dieu ou du Saint-Esprit. C'est aussi vrai que je me tiens sur cette estrade ce soir. C'était de bons membres tièdes, dont le seul sort était qu'il les vomirait de sa bouche. Paul nous a prévenu que les gens des nations n'étaient qu'une branche. Maintenant, j'aimerais que certains d'entre vous, si vous le voulez bien, prennent Romains, chapitre 11, du verset 15 au verset 27. C'est juste pour que vous puissiez tous le noter. Bon, comme il se fait tard, je vais vous le citer juste avant de terminer. Parce que c'est un... Bon, Romains, si vous voulez noter cela, 11, 15 à 20 à 27. Paul leur a parlé et a dit, s'adressant là aux gens des nations, aux Romains, il a dit, « Si Dieu, maintenant, écoutez alors que nous terminons les âges de l'Église. » Paul a dit, « Si Dieu n'a pas épargné l'olivier originel, mais l'a retranché à cause de l'incrédulité. » Pas vrai? Qu'est-ce qui a fait qu'on les retranche? C'est parce qu'ils ont rejeté la Pentecôte. Pas vrai? Au jour de la Pentecôte, ils se sont moqués et ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Quand Jésus était ici sur la terre, il a dit, ils l'appellent, l'ont appelé Belzébul. Et on dit, il était un démon. Et il est un diseur de bonne aventure. Et que sais-je encore? Il a dit, je vous pardonne pour cela, mais quand le Saint-Esprit sera venu, ne parlez pas contre lui, car si vous parlez contre lui, cela ne vous sera jamais pardonné. Et souvenez-vous, quand Jésus a donné la commission à ses disciples, n'allez pas vers les gens des nations, est-ce vrai? Mais allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. Comment se sont-ils condamnés? En blasphémant contre le Saint-Esprit, en appelant l'Esprit de Dieu une chose impure. Ils se sont moqués de lui quand il dansait par l'Esprit et tout, le jour de la Pentecôte. C'est dans cette même ville où ils s'en sont moqués que Titus les a tués et que leur sang a coulé hors de la porte. C'est dans ce même siècle qu'ils ont dû manger leurs propres enfants et tout. C'est vrai, l'une des plus grandes nations du monde est devenue la plus méprisable. Et elle a été dispersée aux quatre vents de la terre. À cause de quoi? L'incrédulité. Et c'était la souche originelle, l'arbre originel, Israël. Paul, ne dit-il pas là? Qui a trouvé ce passage de l'Écriture là? Pat, l'as-tu trouvé? Lève-toi et lis du verset 15 au verset 27. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi, je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Écoutez, incrédulité, très bien, continue. Et toi, tu subsistes par la foi, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux, de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Le saisissez-vous? Paul a dit, si donc Israël a pu aller jusqu'à voir les signes du Saint-Esprit et a été retranché, souvenez-vous, c'est parce qu'ils ont rejeté le message de Paul, le baptême au nom de Jésus, la repentance et le baptême au nom de Jésus, les miracles et les prodiges qui accompagnent le croyant. Et ils ont rejeté cela. Ils ont dit, voici, nous nous tournons vers les païens. Pas vrai? Voyons voir. Je crois que c'est là où, pour la première fois, on les appelait des chrétiens. C'était à Éphèse ou à Antioche. Maintenant, si le premier arbre était saint, ses branches saintes, l'arbre originel, et à cause de leur incrédulité à l'égard du message de Pentecôte que Paul prêchait, est-ce vrai? Dieu les a retranchés, a pris l'olivier sauvage, c'est-à-dire nous, les gens des nations, et nous a greffés pour que nous puissions vivre de l'arbre, la substance de cet arbre. Eh bien, à combien plus forte raison, en ce jour où nous rejetons le message de la Pentecôte qui a cheminé d'un bout à l'autre des âges de l'Église, à combien plus forte raison Dieu pourrait-on retrancher ce vieil arbre sauvage, de toute façon, et faire entrer l'autre, et ce, du fait qu'il rejette cela à cause de l'incrédulité. Maintenant, faites concorder cela avec la leçon de ce matin. Vous savez où nous en sommes maintenant, n'est-ce pas? Nous sommes au temps de la fin pour l'enlèvement de l'Église des nations. Son enlèvement est l'entrée en scène du Saint-Esprit qui doit venir sur les Juifs et de Jésus qui doit se faire connaître pour sceller les 144 000. Voilà, il ramènera de nouveau l'arbre originel. Il reviendra dans la bénédiction en Israël. Jésus ne restera pas là devant votre porte à frapper indéfiniment. Un temps viendra où il en aura assez et s'en ira. Ce sera alors vous qui frapperez, mais vous ne le trouverez plus. Venez pendant qu'il est temps. Venez pendant qu'il frappe. Ne faites aucun compromis sur le baptême du Saint-Esprit. N'ayez rien de moins que ce qu'ils ont reçu à la Pentecôte. Ayez le même genre de baptême d'eau, les mêmes choses qu'ils ont faites là-bas. Que rien ne vous fasse recevoir dans votre cœur autre chose que cela. Maintenant, à vous, mes amis catholiques, je vais vous dire quelque chose. Vous croyez en la Vierge Marie. La Vierge Marie, qui était la mère de Jésus-Christ, a dû monter à la Pentecôte et être remplie du Saint-Esprit et se conduire comme une personne ivre. Elle était parmi ses 120. Elle a reçu le baptême du Saint-Esprit, a parlé en langue, et s'est conduite comme une femme ivre là-bas, sous l'action de l'Esprit de Dieu. Et si la Vierge Marie a dû faire ça pour entrer dans la gloire, comment y entrerez-vous avec autre chose que cela? Pensez-y. C'est vrai. Les baptistes, ce prédicateur baptiste qui est là veut s'assurer que cela soit aussi dit aux baptistes. C'est pour tout le monde, peu importe qui c'est. Alors, si vous vous contentez d'adhérer à l'Église, de réciter un credo et d'aller à l'Église tous les dimanches matins, cela ne vous fera aucun bien. Tout ça, c'est juste se moquer de Dieu. Soyez un véritable chrétien, sinon ne soyez rien du tout. Soyez bouillant ou froid. Soyez soit à l'extérieur, en effet, vous ne pouvez pas être, vous n'avez jamais vu un oiseau noir qui est blanc, vous n'avez jamais vu un homme ivre qui est sobre, vous n'avez jamais vu un pécheur qui est saint. Non, jamais, ça n'existe pas. Vous êtes soit rempli du Saint-Esprit et Dieu vit en vous, ou vous ne l'êtes pas du tout. Vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas. C'est pourquoi vous devez vous rappeler que Jésus se tient à votre porte. Et souvenez-vous de la promesse que Dieu a faite ici, qu'il fera en ces jours-ci, à cause de quoi? Avoir rejeté. Pourquoi Israël, l'arbre originel, a-t-il été retranché? C'est parce qu'ils ont rejeté le message de Pentecôte de Paul. Croyez-vous que ceci est le dernier âge de l'Église? C'est ce que dit la Bible. Et qu'est-il dit de ce qui leur arrivera? Ils seront retranchés pour avoir rejeté le message de la Pentecôte. Et alors Dieu se tournera de nouveau vers les Juifs. Et là, tout Israël sera sauvé, parce qu'il les prendra en tant que nation, et non en tant qu'individu. Mais quant à vous et moi, c'est individuel, parce qu'il vient aux Juifs, Actes, dans le livre des Actes. Il est venu vers les gens des nations pour faire sortir du milieu des nations un peuple, pour qu'il porte son nom. C'est son épouse, un peuple. Un ici, un là, un par ici, et il traite avec nous en tant qu'individu. Peu importe notre race, notre credo ou notre couleur, il traite avec nous en tant qu'individu. C'est son bouquet qu'il placera sur son autel. Mais en ce qui concerne les Juifs, il a toujours traité avec Israël en tant que nation. Ils sont une nation de gens, sa nation. Je suis heureux ce soir que nous ayons ce message. Et je suis très heureux que vous soyez venus. J'apprécie vraiment votre présence. Je suis reconnaissant au Dieu Tout-Puissant de m'avoir permis de voir ce que j'ai vu et d'avoir pu apporter cela à cette Église. Maintenant, je m'en suis déchargé. Depuis un certain temps, le Saint-Esprit traitait avec mon cœur. Je ne pouvais pas m'en débarrasser. Il me fallait suivre cela. Il y a deux choses que je me suis senti conduit à faire. Aller à Shreveport, en Louisiane, pour avoir des réunions en compagnie de frères morts. Ma femme, qui est assise là, peut vous le dire. Pendant des semaines, j'ai presque pleuré. Je veux aller à Shreveport. Pourquoi? Tous ceux qui étaient là-bas à Shreveport savent maintenant pourquoi. Ils n'avaient jamais rien vu ou entendu de semblable. Des prédicateurs venaient de partout, des baptistes et ceux de différents groupes. Un homme a dit qu'il avait commencé à tendre la main pour ouvrir son réfrigérateur. Le Saint-Esprit est descendu sur lui et a dit, « Va à Shreveport en Louisiane. Là-bas, il te sera dit quoi faire. » Il lui a dit mon nom et où trouver. Il lui a dit, « Il te dira quoi faire. » Je lui ai dit, « Le baptistère est ouvert au bas de l'escalier. Il vous faut le baptême du Saint-Esprit. » Et là, et donc, des choses de ce genre, des gens parlaient. Il y avait des prophéties et des choses, des prédictions par rapport aux choses qui se sont ensuite produites, juste là, parmi nous. Puis j'ai dit, je dois aller à Jeffersonville pour écrire ce livre, parce que je ne sais pas combien de temps il me reste ici. Mais si j'exprime ceci et que c'est mis par écrit, après mon départ, ces paroles subsisteront. J'ai noté les références historiques qui seront mentionnées dans le livre. Et quand je viens ici, c'est pour l'apporter devant l'Église, afin de trouver l'inspiration du Saint-Esprit, parce que moi-même, je ne connaissais pas ces choses. C'est vrai, c'est au nom du Seigneur, c'est vrai. Je ne les connaissais pas. Maintenant, je me sens libéré. Je sens que Dieu nous a apporté le message. Je crois que nous sommes au bout du chemin. Je crois que l'heure est venue où Dieu va se manifester et se faire connaître parmi nous. Je ne sais pas combien de temps ça prendra encore, mais l'heure est proche. Nous nous attendrons à l'entrée en scène de ce grand homme. Il pourrait venir en mon jour. Il pourrait venir au jour des plus jeunes. Je ne sais pas. Il pourrait être parmi nous en ce moment même. On ne sait pas. Le Saint-Esprit est ici pour nous conduire jusqu'à ce que ce temps-là arrive. Puis, quand ce conducteur nous conduira, il sera lui aussi loin du Saint-Esprit. Cet Élie le sera, bien sûr, celui qui viendra. Mais il sera le conducteur qui ramènera le cœur des enfants, ou le cœur des enfants au message du Père, au message de notre Père Céleste, au jour de la Pentecôte, quand il a répandu son esprit. Cette petite ligne de pensée, je l'ai fait concorder autant que faire se peut avec l'histoire et la Bible. J'ai montré que cette chose a traversé les âges de l'Église, et cela se trouve ici aujourd'hui, et montré que les dénominations sont une malédiction devant Dieu. J'espère que c'est réglé dans votre esprit par la Bible, par les actes des apôtres, par l'histoire et tout, que... Et à aucun moment Dieu n'a organisé son Église. La mère des Églises organisées, c'est la hiérarchie catholique romaine. L'Église catholique romaine, c'est la mère des organisations. Et dès qu'un réveil se produit au sein d'un groupe protestant, ils se retournent et font la même chose. Et selon la Bible, elle était une impudique. Et en plus, elle avait des filles, c'est-à-dire des églises issues d'elle. Pour qu'elles soient appelées des prostituées, il fallait donc que ce soit des femmes. Eh bien, voilà. Ainsi nous plaçons. Mais il a aussi dit ceci. « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Puissions-nous tous, ce jour-là, vous les méthodistes, les baptistes et que sais-je encore, quiconque ouvrira la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Puissions-nous être du nombre, mes frères, mes sœurs, puissions-nous être du nombre de ce petit troupeau ce jour-là. Puissions-nous faire partie de ce petit troupeau qui sera resté dans l'attente quand il viendra, alors qu'il vient les prendre d'un bout à l'autre du monde. Car l'enlèvement sera universel. De deux qui seront dans un lit, j'en prendrai un. De deux qui seront dans un champ, j'en prendrai un. Cela montre qu'il fera nuit d'un côté de la terre et jour de l'autre. Voyez? Alors, il est dit, deux seront dans un lit, deux seront dans un champ. Voyez? J'en prendrai un de chacun. Et comme je l'ai dit ce matin, un de ces jours, vous serez là sur la route à parler à votre mère. Et quand vous vous retournerez, elle sera partie. Vous serez assis à table, en train de boire votre café ou de manger votre petit déjeuner ou quelque chose. Et tout à coup, vous regarderez autour de vous et papa ne sera plus là. C'est tout à fait vrai. Cela s'en vient. Nous ne savons pas à quel moment. Mais ce qu'il y a, c'est que quand ce sera fini, à ce moment-là, ce sera fini. Vous ne pourrez plus rien faire à ce sujet. Vous dites, ça fait longtemps que j'entends ça, mais vous l'entendrez un jour pour la dernière fois. C'est vrai, cela arrivera parce que c'est la parole du Seigneur. Et souvenez-vous, est-ce que cela a failli une seule fois au cours de ces 8 soirées où j'ai prêché? Au contraire, ce que Jésus a dit ici s'est accompli parfaitement dans chaque âge de l'Église. Et nous voyons que cet âge de l'Église est vraiment rendu là, exactement autant marqué. Même ce matin, en prenant les vierges comme type, au moment même où la vierge endormie. Eh bien, souvenez-vous, la Bible dit que la vierge endormie, quand le cri a retenti, « Voici, l'époux vient !» La venue du Seigneur, la prédication de la parole. Alors, qu'est-il arrivé? L'heure est proche, les bombes atomiques et tout le reste sont en place. Les prédicateurs parcourent les rues et commencent à proclamer le message. Et dès qu'ils se sont mis à le faire, la grande église, la vierge endormie, s'est mise à dire « Eh bien, nous sommes presbytériens depuis longtemps. Peut-être que nous devrions étudier cela pour y voir plus clair. » Oui, vous savez, je crois que nous avons besoin du Saint-Esprit. Et en ce moment, ils sont en train d'écrire des brochures et tout au sujet de cela. Ils commencent. Elles ont dit, « Voulez-vous nous en donner un peu ?» Les autres ont répondu, « Non, nous en avons juste assez pour nous. » Alors, quand elles sont allées pour recevoir le Saint-Esprit, elles sont allées pour prier jusqu'à exaucement, comme les églises, comme le font ces belles grandes églises aujourd'hui, les organisations. Quand elles sont allées chercher l'huile, l'époux est venu. Alors, elles essayent de l'obtenir en ce moment même. De grandes églises, des organisations, elles convoquent de grandes réunions internationales au sujet de cela dans les églises organisées et disent, il nous faut retourner à la bénédiction de Pentecôte. Il nous faut avoir des guérisseurs divins dans l'église. Il nous faut des gens qui parlent en langue. Il nous faut des gens qui interprètent les langues. Il nous faut avoir tous ces dons spirituels dans notre église. Il nous faut absolument commencer à avoir des réunions et commencer à faire ces choses. Ils sont en train de mettre sur pied des conseils. Ils ont commencé à le faire. Pendant qu'elles étaient parties pour faire cela, c'est à ce moment-là que l'époux est venu chercher celles qui avaient de l'huile dans leur lampe. Et ils sont partis. Plus tard, elles sont venues. Et que s'est-il passé? Elles ont été jetées dans les ténèbres du dehors. La période de la grande tribulation, où il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents, pendant que l'épouse est au ciel. Oh là là! Et à la fin de ces 3 ans et demi, il viendra comme l'a fait Joseph, et se fera connaître à ses frères. Cela provoquera des lamentations partout. Et ils diront, ils sépareront leur famille, et pleureront, et diront, d'où te viennent ces cicatrices? Et les percés, ceux qui l'ont percé le verront. Et il se fera connaître à ses frères. Maintenant, il essaie de se faire connaître à son église. Et ils l'ont expulsé. Et il est toujours là, à frapper, à dire, « Y en a-t-il un de plus là-dedans? Un qui ouvrirait et me laisserait entrer et parler avec lui? Oh, je suis heureux, si reconnaissant qu'environ, il y a bien des années, environ 28 ans, j'ai senti ce coup frapper à la porte de mon cœur. Et il est entré. Depuis ce temps-là, je soupe avec lui et lui avec moi. Et j'ai reçu la bénédiction de Pentecôte. J'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. C'est la seule fois où j'ai été baptisé de ma vie. C'était cette seule fois. Je n'étais alors qu'un jeune homme. Personne ne pouvait me dire qu'il y avait 3 dieux. Non, vous n'auriez pas pu me faire avaler cela. Vous ne pouvez pas le faire avaler à quiconque connaît un peu, connaît ce que Dieu est. C'est vrai. Alors, quand j'ai baptisé, c'est un prédicateur baptiste qui m'a baptisé. Je lui ai dit, « Je veux qu'on me baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Dr. Roy E. Davis m'a baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ quand j'étais tout jeune. Voyez, c'est vrai. Alors, je croyais cela. Je m'en suis tenu à cela. Et je sais que c'est la vérité. C'est la parole éternelle de Dieu. C'est vrai. C'est vrai.
May not
learned to be or boast of worldly fame. They have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and are telling now both far and His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm
one. Êtes-vous heureux? Si oui, levez la main. Une fois que vous serez à lui, vous serez au-dessus de tout péché, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, serrons-nous la main, en avant, en arrière et tout autour. N'êtes-vous pas heureux d'être l'un d'entre eux? J'aime ça. Un groupe bruyant. Chut, chut.
I say unto thee, repent, yea, repent and be converted, yea, that all your sins may be blotted out. The time of refreshing has now come from the presence of the Lord. Yea, I say unto thee, my people, hearken to the voice of my prophet that I have sent unto thee to declare unto thee this present truth. Yea, I say unto thee, be established in the present truth. Yea, this more sure word of prophecy, yea, that has come to thee from my word. I say unto thee, I will confirm this word into thee as the days go past, saith the Spirit of the Lord.
Combien nous te remercions, Père, pour ta bonté et ta miséricorde envers nous, nous qui sommes indignes de penser que tu confirmes ton message maintenant, Seigneur, promis aux gens, Je te prie, ô Dieu, de faire reposer ta miséricorde sur eux. S'il y a ici quelqu'un qui ne le connaît pas comme son sauveur et qui aimerait l'avoir maintenant dans son cœur, en sa qualité de sauveur, voudriez-vous vous lever alors que nous prions pour vous? Il a dit qu'il a donné ce message-là parce qu'il voulait vous confirmer sa parole. S'il y en a ici qui ne le connaissent pas et qui n'ont pas reçu son esprit, c'est à vous qu'il parle. Très bien. Il y a quelqu'un là au fond. Voudriez-vous simplement vous lever, frère? Il veut recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est ça, frère? Que Dieu vous bénisse. Restez où vous êtes. Y en a-t-il un autre qui voudrait se lever et dire, « Je voudrais recevoir le baptême du Saint-Esprit » Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse. C'est bien. Levez-vous simplement. Restez debout. Y aurait-il quelqu'un d'autre qui aimerait recevoir le Saint-Esprit, recevoir ce baptême, et qui aimerait qu'on se souvienne de lui dans nos prières ici, pour qu'il reçoive le baptême du Saint-Esprit? Y en a-t-il un autre, avant que je dise ce que je suis sur le point de dire, qui aimerait se lever et y être inclus?
Be spotless within.
Hallelujah.
Be watching and waiting that sight to behold. He's coming again.
Il revient bientôt. Voudriez-vous être son ennemi ou voudriez-vous être son enfant? Un Dieu en colère ce matin-là. Il ne reconnaîtra rien d'autre que le sang de Jésus. Jamais il ne... Votre appartenance à l'Église ne vaudra rien à ses yeux, rien d'autre que le sang. Lentement.
Can wash
away my sin, nothing but the blood of Jesus.
What can make me whole again,
nothing but the blood of Jesus.
Oh, gracious is that Lord that
Y en a-t-il un autre? Rien ne peut subsister, frère, sœur. Le monde s'enfonce. Il est fichu. Lentement, Teddy, si tu veux bien, il y a une source remplie du sang des veines d'Emmanuel. Maintenant, mes amis, vous qui êtes debout, vous essayez d'accepter la douceur du Seigneur Jésus, cette même Bible qui nous dit que ces choses arriveraient. Il les a accomplies exactement comme il l'a promis. Or, la promesse, a dit Pierre, est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Vous vous êtes levés parce que vous voulez la bénédiction de Dieu sur vous. Et en tant que son serviteur, Je prie pour vous. Je vais prier pour que Dieu vous accorde le baptême du Saint-Esprit. Et je me demande si vous pourriez faire ceci dans votre cœur, si vous êtes sincère, si vous voudriez faire cette promesse à Dieu. Ô Dieu, dès ce moment, alors que je suis debout, que je cherche le baptême du Saint-Esprit, je prierai continuellement et j'attendrai jusqu'à ce que tu me remplisses du Saint-Esprit. Voulez-vous faire cette promesse à Dieu en levant la main? Je prierai continuellement, jusqu'à ce que tu me remplisses de la douceur et de la bonté de l'Esprit. Je vais maintenant prier pour vous alors que nous courbons la tête. Notre Père Céleste, ils sont les trophées de ta présence. Ils savent que ces paroles sont vraies parce qu'elles sont de toi. Ils savent qu'elles ont été données par le Saint-Esprit parce que c'est la parole de Dieu. Et ils sont convaincus qu'ils ont besoin de toi, qu'ils ont besoin de la douceur du Saint-Esprit dans leur vie pour leur donner la puissance pour vaincre. Et ils recevront la puissance d'en haut. Ils recevront la puissance pour mener une vie chrétienne. Recevront la puissance pour vaincre les tentations. Comme ce chant que nous venons de chanter, ils étaient rassemblés dans la chambre haute et ils priaient en son nom. Ils ont été baptisés du Saint-Esprit et revêtus d'une puissance, le pouvoir de le servir. C'est ce qu'ils désirent, être revêtus d'une puissance, le pouvoir de le servir. Je te prie, Père, en tant que ton serviteur, alors que tu les as vus lever la main, ils se sont engagés envers toi et ont promis qu'ils ne cesseront jamais, qu'ils n'abandonneront pas, mais qu'ils prieront jusqu'à ce que tu les remplisses, Seigneur, de la portion qui satisfait pleinement de ta sainte présence dans leur vie. Je prie en leur faveur, Seigneur, en tant que ton serviteur, afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour qu'ils ne quittent pas cette Église avant que cela se produise, qu'ils restent ici jusqu'à ce que chaque âme soit remplie du Saint-Esprit. Accorde-le, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu as été manifesté dans la chair pour ôter les péchés du monde. Tu es ressuscité le troisième jour et tu es monté en haut. Tu es ici ce soir, parmi nous, en tant que Saint-Esprit. Et nous te prions, ô Père, toi qui es notre précieux Seigneur, de remplir chacun d'eux de ta propre personne. Puisse-t-il être une bénédiction pour ton royaume et dans le monde à venir. Et un jour, quand tu arriveras finalement au bout du chemin, ce pourrait être aujourd'hui, mais nous ne savons pas quand ce sera. Mais que je puisse, ô Seigneur, être du nombre de ceux qui partiront dans l'enlèvement. Puisse-ceux-ci être du nombre de ceux qui partiront dans l'enlèvement. Puisse chaque personne dont ta divine présence et tous ceux qui sont remplis de l'Esprit et qui appartiennent à Dieu partir dans l'enlèvement. Fais entrer ceux-ci ce soir, Père. Ils sont à toi maintenant. Je te les confie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, j'aimerais que ceux d'entre vous qui sont près de ces gens et qui ont le Saint-Esprit se lèvent et leur imposent les mains.
sin.
Maintenant, levez-vous main vers Dieu et donnez-lui la louange. Dites, merci Seigneur, je me lève, je vais te donner la louange. Je te remercie pour tes bénédictions, pour ta bonté et de m'avoir donné le baptême du Saint-Esprit. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je te remercie, Dieu bien-aimé, de nous avoir donné. Tu tiens ta promesse. Tu l'as dit, nous te croyons. N'êtes-vous pas heureux? Dites, gloire au Seigneur. Teddy, laisse-moi juste un dernier. Il y a bien des gens qui ne peuvent pas comprendre. C'est comme goûter le ciel.
People who can't understand why we are so happy and free. We crossed over Jordan to heaven's fair land, and this is like heaven to me. Oh, this is like heaven to me. Oh, this is like heaven to me. Oh, we crossed over Jordan to Canaan's fair land, and this is like heaven to me. Oh, when I get happy, I sing and I shout. The devil won't believe it, I see.
Ever.
But I feel with the Spirit, there isn't a doubt. And that's what's the matter with me.
Cela ne vous rend-il pas heureux? Très bien. Serrez la main de quelqu'un, dites « Gloire au Seigneur !» C'est comme goûter le ciel, Seigneur. Maintenant, doucement, avec la tête inclinée.
Name of Jesus ever. from every snare. Oh, and temptations round together.